Télécom a déposé de la DSL sur une ligne d'en face des vidéos. Et donc, il s'est servi d'accès monté par FDN, sur lesquels il a monté le jour où les journalistes venaient des accès Wi-Fi pour distribuer du réseau. C'était essentiellement étouffant. Et il se trouve qu'il y a des bouts de ligne ADSL qui sont encore ouverts, sur lesquels il n'y a rien qui se consomme, donc il y a de la dette qui se crée, qui est très élevée, parce que c'est une ligne ADSL non dégroupée au tarif association, ça représente des milliers d'euros, sauf qu'en vrai, ça nous coûte 15 ou 20 euros par mois, et qu'il faut qu'on ferme les accès, et voilà, c'est pas, ça ne représente pas vraiment une dette. On a sponsorisé un coup de pub de militants associatifs sur des domaines assez voisins des nôtres, qui lui se servait de point d'accès FDM pour monter des réseaux mesh Wi-Fi, soit pour faire des vrais bouts de réseau, soit simplement pour faire du battage médiatique et obtenir ce dont il avait besoin.
Pour détail, sinon il sera disponible en ligne, bien sûr.
Excuse-moi, il faut m'envoyer la facture. Ok. Au revoir à tous. Au revoir. Qu'est-ce que c'est
ça? Mais non, mais c'est à lui d'envoyer la facture. Enfin. Parce que nous, on a payé la facture, mais on l'a pas.
Voilà.
Reviens.
Florian.
Sinon, sur les comptes fournisseurs ou réputatels, vous avez la quadrature du net hein, avec une avance de 1000 euros.
Alors ça, c'est assez simple. C'est, pour le coup, je vais empiéter un petit peu sur le point 3, qui est le bilan de FDN2. Par contre, cette partie-là ne retranscrit pas sur l'IRC. Et je te demande d'expliquer pourquoi. Voilà, FDN2, c'est pas public, contrairement à FDN. Et je sais que sur IRC, il y a à peu près la moitié des gens qui ne sont pas adhérents de FDN, et donc n'ont pas à savoir ce qu'on fait sur ce sujet-là. Et j'en suis très désolé. Donc, le mécano qui consistait à utiliser FDN comme tirelire pour faire transiter les 20 000 euros de financement de la quadrature du net.
Le micro aussi.
De toute façon, il n'est pas. Bon, je veux bien le micro, mais ça ne marche pas. Non, c'est pas reprendre. Non, c'est pas reprendre.
Ça marche pas.
Ah,
oui, je suis sûr que ça marche pas.
Je viens de brancher un micro, mais c'est pas retransmis sur le net.
Eh bien, il faudra couper au montage. Donc, les 20 000 euros de la quadrature du net qui transitent par FDN, éthiquement, ça ne pose absolument aucun problème. Comptablement, ça se gère, c'est des virements, c'est pas fatigant. Par contre, ça fausse complètement la comptabilité de l'association. En particulier, ça nous rend artificiellement trop gros. C'est-à-dire que n'importe qui lit le bilan de cette année, pour lui, FDN, c'est une association qui a 55 000 euros de budget elle-même. Ce n'est pas vrai. C'est 35 000 de budget elle-même. Sachant que sur 2009, le financement de la quadrature est de 75 000 euros. Donc on se retrouverait avec un budget annuel au-dessus de 100 000, alors qu'on n'aurait pas grandi. Alors, en fiscal, on craint rien, parce que c'est pas lié à un commerce, enfin, c'est blindé fiscalement. Mais, bon, c'est sujet à emmerde. C'est sujet à emmerde et c'est sujet à but de pouvoir, pour un argent qui n'est pas à nous. Donc on a décidé de l'isoler. L'isoler dans une association qui soit entièrement autonome. Ça, c'était très simple. On se mettait à trois autour d'une table, on signait un papier, on avait fait une assoce, et puis voilà. Sauf qu'une association totalement autonome, c'était totalement opaque. C'est-à-dire que personne ne contrôle d'où viennent les fonds, où ils vont, qui fait quoi avec, est-ce que ça sert à payer des putes pour des gens, ou est-ce que ça sert à payer des choses utiles. Voilà. C'est 100% opaque. Donc on a cherché un espèce de modèle hybride qui est celui qui vous a été présenté sur la liste AG à partir des statuts de FDN2. Alors pour les gens qui ne les ont pas lus, j'en ai aligné quelques-uns s'ils veulent faire de la lecture de textes un peu alambiqués. Le montage est assez simple, FDN2 n'est que une tirelire, il ne s'y passe rien d'autre que des mouvements de trésorerie. Ça n'est pas un lieu de discussion, ça n'est pas un lieu de militantisme, ça n'a pas d'autre action que de pomper du pognon et de distribuer du pognon. À l'heure actuelle, le seul et unique projet financé par FDN2, c'est la quadrature du net. 100% des revenus de FDN2 sont dévolus à la quadrature du net et viennent de gens qui sont là pour financer la quadrature du net. C'est-à-dire que la fondation Soros, c'est pas pour FDN qu'elle a donné 75 000 euros sur 2009, c'est bien pour la quadrature du net. C'est pas pour nous. Nous, on sert juste de relais de trésorerie là-dedans. Du coup, l'histoire des 1000 euros desquels je suis parti, c'est simplement que les fonds de M. Soros tardaient à arriver et que le principal activiste de la quadrature du net, il avait besoin de manger et que ça commençait à devenir urgent et qu'il était à découvert beaucoup très plein, donc il ne pouvait plus retirer 10 euros en liquide et qu'étant à Bruxelles, il avait quand même besoin de pouvoir manger un morceau pour aller taper sur les parlementaires.
Et la quadrature, elle peut pas se voir
directement. Et non, la quadrature n'existe pas. La quadrature du net est une association de fait.
De fait.
Ça n'est pas une association déclarée. Parce que vous venez de signer vos signatures, puis entre Dominique et Verdi, si vous avez compris de bien.
Il y a
une
chaise
qui est.
FDM, ça veut dire quoi ?
Ça veut dire quoi ?
Hein ? C'est un truc de 1900. Hein ? Non, mais ça va.
Bon, on termine sur la compta. Donc, dans les comptes fournisseurs, on avait la quadrature du net avec cette avance de 1000 euros. On a Jitoyen. Là aussi, on a un solde qui correspond à une avance. En fait, Jitoyen a augmenté la trésorerie qui demandait à ses membres. Jusqu'ici, c'était 2000 euros, comme sur la transition entre 2007 et 2008. Et une contribution supplémentaire de 2497 euros. Mais il y a aussi la dernière facture de 2008 qui n'avait pas été payée pour 1600 euros, ce qui fait un solde de 1840 euros.
Personne n'a 1,20 s'il y a des panneaux ?
Non,
pareil. Oui, ça va, il a 1,20, t'inquiète pas.
C'est dans la poche. 2 euros.
Oh là là. Ça part en combien de minutes aussi ? Bon, les
adhérents.
Ok.
Bonne journée.
Merci.
Ouais. Non, c'est pas une ligne, de toute façon, c'est bloqué. Ensuite, vous avez quelques dettes, une envers GIS qui correspond à l'hébergement des machines. Qui n'a pas été payé jusqu'à présent. Donc c'est pas grave, c'est un fournisseur patient. Et CGTL, qui est un fournisseur plus ou moins patient. Et enfin, vous avez une espèce d'avance de trésorerie envers CACIS. CACIS, c'est le. Je ne sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, ce truc CACIS. Et ça s'écrit pas comme CACIS, mais. Et une espèce d'avance en fait qui correspond au simple fait qu'on a payé la facture pour les t-shirts qu'on a fait fabriquer, mais que comme j'ai pas la facture, je peux pas la rentrer je peux pas la piloter en compta. Du coup, on a l'impression qu'on leur a avancé l'argent. Bon, c'est juste ça, 730 euros. Et puis vous avez les comptes bancaires. Les comptes bancaires, on a fin 2007, donc étant acquis fin 2008, étant avec début 2009, CGTL avait demandé une somme astronomique. Donc on avait fin 2008, début 2009, 9 000 euros sur le compte courant de la caisse d'épargne, 10 000 euros sur le livret A et 9 000 euros sur le livret bleu du crédit mutuel. Donc ça fait un total d'à peu près un petit peu moins de 30 000 euros. Sympa comme trésorerie, mais il y a 12 000 euros qui ont disparu de 2019 quand même. Donc,
important pour les gens qui sont inversés, hein, sur IRC, sur les comptes bancaires, les sommes sont négatives, ça veut dire que l'argent de la banque, vous voulez venir. Hein,
il faut
préciser
ouais.
Quand dans la ligne compte bancaire sur la compta, il est écrit que sur le compte chèque de la caisse d'épargne, donc CECC, compte chèque, CECC, ça veut dire compte chèque, caisse d'épargne, compte chèque. Il y a écrit moins de 1966.
C'est par contre le débiteur chez nous.
Non, ça veut dire qu'on a ce limite.
Ça veut dire que la caisse d'épargne nous doit.
Oui, c'est ça, leur compte est débiteur chez nous.
Leur compte est débiteur chez nous et donc nous sommes en crédit chez eux.
De toute façon, tous les comptes qu'il y a dans une trésorerie, c'est par rapport à nous. C'est comme si les gens avaient des comptes chez nous, par rapport à nous.
Voilà. Nous avons très généreusement prêté 30 000 euros à des banquiers nécessiteux.
Mais c'est exactement ça, c'est notre pognon qui est chez eux quand même.
Oui,
mais
c'est notre règle qu'on a perdu. Hein.
Ouais. Voilà, donc ces chiffres, en fait, vous allez les retrouver dans le bilan, la dernière page. Sauf qu'ils sont amalgamés, donc ça devient assez visible. Mais c'est un bilan que vous pourrez comparer au bilan de 2007. La différence correspond évidemment au compte de résultat. Ça veut dire en PDF. Est-ce qu'il y a des petits
trous dans l'association sur les RP?
À propos des banques, est-ce qu'il ne serait pas logique qu'on passe chez la NEF? Ce serait plus en accord avec les.
Je connais pas. Tu nous expliques un peu?
La NEF, c'est une banque qui place l'argent qu'on dépose chez eux, qui est placé que dans des projets collaboratifs, enfin les choses qu'on aime bien. Ça va pas en bourse.
Je vous engage quand même à regarder beaucoup plus près ce que fait la NEF. Après, vous resterez sur l'idée de la
c'est un établissement financier qui ne fait pas banque directement, qui est adossé au crédit coopératif pour ce qui est les produits bancaires courants. Et en fait, c'est un établissement qui permet de financer les projets énergétiques bon, à vocation sociale, solidaire ou environnementale. Tous les projets financés par la NEF, donc. Sont en fait publiés dans la dans le, une publication annuelle à disposition de tous les sociétaires. C'est une société coopérative, la NEF. Donc tous ceux qui déposent de l'argent, comme tous ceux qui en bénéficient, sont sociétaires de la NEF. Voilà un peu le côté établissement.
Donc après, c'est la même chose que le Crédit Mutuel. Nous sommes sociétaires du Crédit Mutuel.
Il n'y a pas le même vernis autour. La crête et puis l'historique de création n'est pas la même, même si la NEF a évolué depuis. Autant au début, effectivement, c'était vraiment très sur cette ligne-là. Donc ce n'est pas le même historique de création, ce n'est pas une banque. Mais bon, maintenant.
Ça ne paraît pas un enjeu majeur, mais oui, je me trompe peut-être.
Ça dépend des relations en plus qu'une association a avec son banquier. Ça aussi, c'est à prendre en compte, quoi.
Disons, je dirais qu'aujourd'hui, si on commence à réfléchir à ce que fait le banquier avec notre argent, aujourd'hui, la meilleure sécurité qu'on puisse avoir, c'est d'avoir notre argent à la NEF. Je dirais, c'est le moins pire de ce qu'on peut avoir comme établissement financier qui a le droit d'avoir notre argent. Après, évidemment, de toute façon, on pourra toujours, si on commence à regarder, il y a toujours des choses qui ne conviennent pas.
Il y a un point qui est assez important. Le FDN n'a pas de fonds placés. Nous n'avons d'argent que sur le compte courant ou sur un livret d'épargne qui a un équivalent de livret A.
Et même le compte courant, au crédit mutuel, tu n'imagines pas ce qu'ils font avec. Hein. C'est un argent que nous adhésions, ça finance le nucléaire, les parages qui délogent les autochtones dans l'Amazonie et tout ça, alors que la NEF...
La NEF, c'est pareil.
Bah, écoute, moi, j'en ai
plus de choses. Tu lances l'école de Steiner, tu vas voir ce que c'est, et puis tu dis, je vais pas à la NEF. Ah, mais en fait, je crois que c'est ça, il faut regarder le problème, quoi. Ouais. C'est, le projet est intéressant, en fait. Moi, j'ai eu affaire réellement en direct avec la NEF, et bon, il dit, bon, pire que le banquier, pire que notre banquier.
Donc, il y a des barres.
Je propose que si jamais il y a des gens qui ont envie de travailler là-dessus pour de vrai, et ben, qu'ils le fassent et qu'ils envoient un mail sur la liste d'AG.
Ouais.
C'est excellent.
Avec la proposition et pourquoi ça serait vraiment très intéressant.
Ouais. Ouais.
Là, je trouve ça mieux d'en discuter.
Tout en sachant que nous, on a, enfin, pour le moment, mais à la fois la caisse d'épargne historiquement et le crédit mutuel, pour des raisons de participer, on cherchait à avoir certains types de services. Mais qu'en fait, ils n'ont jamais été possible de nous mettre ces services en place, donc on n'est pas forcément satisfait de nos établissements bancaires actuels. Donc tout est ouvert. Hein. Simplement, il faudra quand même qu'on soit capable de faire des prélèvements à terme, d'utiliser les formulaires des banques, enfin de faire certains, d'utiliser certains standards interbancaires. Et donc, que si on change d'établissement bancaire, ça pose pas de problème de ce côté-là.
Est-ce qu'il faut regarder si les services souhaités?
Je vois ce qu'il propose
avec
la
finance.
Ouais.
Ah.
Ouais.
Mais c'est important
qu'on
peut faire
le service
parce que
nous,
en tant qu'adhérent, on
n'est
rien à
se produire. Alors, c'est un point de fonctionnement habituel de l'association. Ça n'a jamais posé de souci que qui que ce soit s'occupe de quoi que ce soit et les informations sont assez simples à obtenir. Si quelqu'un a envie de s'en occuper, et de revenir avec des lignes un peu valables sur le sujet. C'est simple. Alors, la liste bénévole est un très bon endroit pour lancer ce genre d'idée. Il n'y a pas besoin d'attendre qu'on soit engagé pour ça. On peut tout à fait le faire n'importe quand. La liste bénévole à fbm.fr, c'est le bon endroit. Sur des questions un peu plus techniques, une fois que ça a discuté entre bénévoles, nous, il se trouve qu'on l'a mis assez régulièrement, mais... S'il y a des choses qui semblent traîner trop, pousser plus fort sur un petit mail à bureau disant « dis donc, on est en train de bosser là-dessus, on a besoin de telle info », en général, il y a une réponse qui part. Et si ça ne suffit pas, je pense que vous avez à peu près tous mon numéro de téléphone, et sinon il est facile à trouver sur Internet. Quand le bureau ne répond pas en 3 jours, il faut m'appeler. Ça débloque.
Je vais taper encore. Je vais taper encore.
Oui, c'est ça. Votre devise jaune.
Est-ce qu'il y a d'autres questions sur la contrat de FDM?
Il y a une remarque de Nicolas Dumas sur l'université, toujours autour de FDM2. Les gens qui ne sont pas physiquement présents, bon, on n'a pas encore trop discuté de FDM2, mais les gens qui ne sont pas physiquement présents à l'AG ont un peu l'impression qu'ils n'ont pas assez d'infos sur FDM2. Et donc,
il y a une partie qui sera publique, qui sera le pourquoi, comment on a créé FDM2, où j'y reviendrai. Il y a une partie qui ne sera pas publique et qui ne sera pas en plus, qui ne sera pas intéressante, qui sera les comptes de l'association. Ils font une ligne sur les lignes.
Ouais, mais je pense que pour les adhérents qui peuvent pas venir, ils aimeraient bien avoir plus de vie sur la donnée, sur c'est quoi, ça sert à quoi. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de publicité vis-à-vis de ça vers les adhérents. C'est un peu sentiment qu'ils ont.
Alors, je ne veux pas qu'on mélange trop l'ordre du jour.
Ouais,
ce que je voudrais, c'est qu'on veut... Oui, on a parlé sur l'AC. Je voudrais qu'on vote la compta, qu'on fasse une pause. Moi, j'ai besoin de fumer. Vous ferez comme vous voulez. Et puis qu'on reprenne, pour le coup, sur les sujets qui sont quand même plus intéressants, qui sont les groupes de travail, FDM2, l'élection du bureau, etc., après la pause. Est-ce que ça vous convient à tous?
Oui, j'y viens.
Soit t'as faim, oui, ils sont dans ça.
Juste simplement leur répondre, que c'est un point qui sera traité après.
On va en discuter c'est après. Ça. Oui, mais il y a un certain nombre de choses sur la FDM2, donc je ne veux pas qu'elles soient dites.
Oui, non, mais c'est pas besoin de leur dire tout ça pour l'instant, tu dis qu'on discute de la FDM2, après la pause, après la fenêtre.
Donc je propose qu'on mette au voie. Est-ce qu'il y a encore des questions sur la partie comptable? C'est-à-dire sur. Mais ils viennent d'où les sous? Ils vont où? Qui les a volés? Pourquoi ils ne sont plus là? Etc. pas pour engager. Donc s'il n'y a plus de questions pour les comptes, qui désapprouve les comptes? Non, c'est parce que je suis chaque simple dans les choses à compter. Qui s'abstient? Donc il y a monsieur Sylvain Valroux, pas toi ou tous les gens qui t'ont donné procuration?
Simplement d'une voix. Simplement d'une voix, pas de procuration.
Il y en a un qui s'abstient. Ou deux, en tant que Sylvain. Donc a priori, tous les autres votent pour, on est d'accord. Ça simplifiera beaucoup des comptes des voix. Tout le monde saute de bravo, il y a deux abstentions, ça va.
si ça te plaît, je peux m'acheter dans ce qui
bon. On fait une pause et puis on se retrouve dans 10 minutes.
Bon, on va reprendre doucement. On a fait une remarque extrêmement judicieuse sur le fait qu'il y avait quand même beaucoup de nouveaux adhérents et que vous ne connaissiez nécessairement pas tout le monde. Alors on va prendre 10 minutes pour se présenter. Moi, à peu près tout le monde voit qui je suis parce que bah, c'est moi qui ai pris la parole, donc vous avez deviné, je suis le président. De toute façon, ma tronche est partout sur Internet. Donc voilà, moi c'est Benjamin Bayard, vous le saviez déjà. Par contre, il y en a quelques autres qui parlent souvent au nom de l'association sur les listes et que vous n'avez pas forcément vu, et donc qui vont dire deux mots pour se présenter. Monsieur le vice-président. Je m'appelle Arnaud, je suis vice-président d'Orbilicien. Et je suis alcoolique. Je suis vice-président depuis pas maintenant, deux ans. Je suis militant également dans diverses associations plutôt orientées logiciels libres, notamment sur des logs locaux. J'étais organisateur, enfin, j'étais président du comité d'organisation des RML en 2007. Je suis également membre du comité. Je fais partie des Vibrius qui militent aussi dans les notions d'économie solidaire, parce que je suis coopérateur de la société de services en Internet et logiciel libre qui s'appelle Nordexio. Quoi dire de plus, on ne va pas parler CD non plus, bon, je suis très content d'être là. Voilà. Je passe la parole à mon voisin avant qu'il mange.
Alors, je suis Stéphane Avrel-Dupil, sur IRC en général, c'est moi qui ai faim. Donc, voilà, c'est mon caractère principal, d'ailleurs c'est pour ça que je suis là, c'est parce que Benjamin m'avait dit qu'il allait à manger. Je suis très déçu en fait de ce moment-là.
Secrétaire quand même.
Voilà, donc accessoirement je suis secrétaire, ils m'ont fait signer à l'aveugle en me tirant avec des miettes.
Deux chocolats.
Au chocolat et miettes, mais bon, c'est que des miettes. Donc ça fait deux ans, un an ou deux, que je suis secrétaire.
Un an,
un peu plus d'un an. J'avais séché la gêne précédente.
C'est la première. Hein.
Non, déjà, mais j'avais un an, en fait, j'ai séché, donc voilà. Je n'avais pas assez à manger. Et donc voilà.
Alors, pour ceux qui n'avaient pas deviné, je suis trésorier. Moi, je m'appelle Sylvain Valroux, Lulu sur l'IRC, pour ceux qui voient. Je suis trésorier de l'EDN depuis 10, 11 ans, je ne sais plus.
11 ans.
11 ans. Un peu comme toi, président, finalement.
À peu près du même jour.
Le même jour.
Je suis président par mois.
Voilà. Et voilà, je gravite. Après FDF, j'ai gravité dans Gitoyen, dans GIX en périphérie. Et pour le moment, je me contente de ça. Et je suis très content d'être là aussi. Alors, il en manque un quand même. Dom, viens voir.
Il est
bien caché dans le fond, donc on ne le voit pas. Habillé en vert pour passer inaperçu. Non, parce que tu as quand même autant de procurations que moi. Non, pas encore tout à fait autant. Hein. Et donc, moi, Dominique Rousseau, je suis membre de l'FDN depuis 2005, puisque ce qui m'a fait sauter le pas, c'est au moment où on a lancé l'offre ADSL.
où on était dans les 5-6 à mettre en place. Je suis membre du bureau d'ESDM depuis l'année d'après, je prends, parce que je ne vais pas avoir le droit la première année. J'avais pas le droit de voter, mais j'avais pu être. Je m'avais prévu sans avoir le droit de voter. Je suis dans diverses associations, au niveau d'Amiens, j'étais aussi dans l'organisation des RMNL 2007, et je suis associé et collègue d'Arnaud dans leur élection. Je pense qu'il y en a un certain nombre que j'ai dû croiser par mail sur les mails du bureau, du support.
Responsable
d'une
partie du support.
Voilà.
C'est lui qui
vous coûte
l'argent aussi.
C'est lui qui fait les prélèvements en retard. Très en retard.
Mais je suis pas
sûr d'arriver.
Rends l'argent.
Donc voilà, c'est à cause de toi, on a 14 000 euros de trou quand même.
Moi aussi,
j'ai trou. La même. Ok, donc dans les points qui sont les plus attendus, il y a FDM2. Je propose qu'on fasse d'abord toute la partie qui peut être publique, donc qui peut être retranscrite sur IRC, qui est pourquoi on a créé l'association. Il y aura 2 minutes de off sur les comptes de FDM2. Je crois que mon camarade trésorier a oublié le papier avec la compta imprimée. Et bien évidemment, elle ne sera pas en ligne de manière publique. Donc, la façon dont on va traiter ça, puisqu'il faut quand même que vous ayez accès à la compta, elle sera accessible dans l'espace privé. Dans le bout de choses dans lequel vous n'allez probablement pas très souvent, et où on récapitule les prélèvements qui ont été faits, qui n'ont pas été faits, qui doit combien, quelle vente passante est consommée, etc. Donc ce sera dans cet espace-là, pour que ce soit réservé aux adhérents. La prochaine phrase qui va pas sur IRC, la comptabilité de FDM2 pour cette année, je peux vous la faire par cœur. Le compte en banque a été ouvert au mois de novembre. Il y a eu le premier virement de la Fondation Soros de 25 000 euros le 23 décembre. Il y a eu à peu près 40 euros de frais bancaires parce que c'était un virement international. Et donc, les comptes de FDM2 pour 2008 s'arrêtent à plus 24 960. C'est un intérêt limité. En off, ce dont on discutera l'an prochain, c'est de ce qu'on en a fait en 2009. Pour le moment, on a payé 13 000 euros de notes de frais diverses et de salaire à Jérémy Zimmermann pour la couverture du net. Donc il reste à peu près 10 000 euros sur les 25 000 qui ont été versés et le deuxième versement de 25 000 est arrivé. Donc en ce moment-là, tout de suite, il y a un peu plus de 34 000 euros sur le compte. Et la seule action qu'on finance, c'est la couverture du net. Voilà.
Et pourquoi ça doit rester secret ?
Alors, pour le coup, là, ça, on peut re-rentrer dans le officiel et retranscrit.
C'est secret parce que.
Non, c'est, ça pour le coup, c'est la question du montage en fait. Ça revient à pourquoi on a fait FDM2, comment c'est fait, pourquoi est-ce que ça a l'air opaque ? La première réponse, c'est que ça a l'air opaque parce que ça ne l'est. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que ce soit raisonnablement opaque.
On s'est donné
pas mal de mal. Alors, je vais vous retracer un peu les pistes qu'on a éliminées. Et vous allez voir qu'on se retrouve sur une solution finalement relativement simple et assez juste. On ne voulait pas que ce financement transite par FDN parce que ça fausse complètement la lecture des comptes de l'association. 35 kilos de budget annuel, ce qui est le budget annuel normal de FDN, 150 adhérents, 100 abonnés à DSL, ça fait 35 000 euros de budget à peu près équilibré, simple, assez compliqué à lire parce que c'est de la comptabilité, mais sinon à part ça, on comprend bien où va le pognon et d'où il vient. En gros, il vient de vous et il va chez soit CGTL, soit Jitoyen. Par contre, FDN2, ça rendait les choses beaucoup trop diluées. C'est-à-dire que si on se retrouvait avec 150 ou 200 000 euros de budget annuel, c'était pas intéressant que les 30 000 euros de la DSL soient noyés dedans. en particulier parce que sur un budget de 230 000 euros, si on se rend compte que la DSL en perd 5, on peut être tenté de compenser les 5 de la DSL avec les 200 qui sont donnés à côté. Ça, c'est très malsain, il ne faut pas le faire. C'est pas juste. D'ailleurs, les gens qui font des dons pour qu'on aille lutter contre les lois débiles au Parlement européen et au Parlement français, c'est pas pour qu'on perde de l'argent sur la DSL. Donc c'est... Il y a nécessité d'une certaine étanchéité comptable. Donc on ne voulait pas que ce soit porté par la DSL en direct. L'autre solution enfantine, c'était que la Quadrature du Net ne soit plus une association de fait, mais soit une association déclarée en préfecture avec des statuts déposés, un compte en banque. Sauf que le métier de la Quadrature ou le métier des autres actions qu'on peut être amené à soutenir, ça peut être l'emmerde du monde. Donc ils peuvent se retrouver dans des positions politiquement délicates. À force d'aller pourrir la vie de tous les députés de France et d'Europe, il y a un risque qu'ils soient embêtés ou qu'ils finissent par dire une vraie connerie. J'ai suivi un petit peu ce qui se passait autour de la Quadrature. Quand il y a eu beaucoup de feux médiatiques, 50 interviews dans la journée, la probabilité de dire une connerie est quand même élevée. Pour le gars qui répond. Sachant que dans les 50, il y a des journaux qu'on peut juger peu importants comme La Voix du Nord, qui est quand même très lu, et puis il y a des journaux qu'on peut juger majeurs comme International Herald Tribune ou New York Times. On a quand même réussi à avoir des papiers le même jour dans l'International Herald Tribune et le New York Times.
Ce qui a déplu.
Oui, ça a déplu un peu. Et les habitudes de vie démocratique et républicaine font qu'en gros, quand on déplaît, on peut s'en prendre plein la tête, pour pas un rond. Donc la Quadrature du Net est assez facile à attaquer. S'ils étaient une association avec un compte en banque, ce serait très facile à bloquer, il suffit de bloquer le compte.
Ouais,
il y a des lois. C'est-à-dire que la loi, ça fait que tu pourras porter plainte et dans les 25 ans qui suivent, on te réouvrira ton compte en banque, entre temps, t'as pas mangé.
Mais ils savent que FDN est derrière.
Non, FDN n'est pas derrière.
Non, mais ouais.
FDN n'est pas derrière. C'est pas FDN.
On va expliquer ça ici. Ah, mais
cité. Ça, c'est vachement simple. FDN n'est pas derrière. La Quadrature du Net est une association au sens de la loi 1901, reconnue, bien que non déclarée, puisqu'une association peut se déclarer. Et pour le coup, j'aurais aucun problème à expliquer à un juge que moi, je suis responsable de mes actes et pas des actes. Et il peut tout à fait attaquer la Quadrature, mais il n'y a aucun problème. Légalement, c'est parfaitement défendable. Par contre, on voulait que le financement ne soit pas un handicap pour eux, c'est-à-dire qu'ils ne se retrouvent pas à avoir l'obligation de déclarer une association, donc de passer sur un formalisme lourd avec des assemblées générales, etc. Et qu'ils se retrouvent obligés de déclarer leur compte, ce qui est toujours un peu chatouilleux. Quand on a ce type d'activité-là, de devoir déclarer ses comptes. Et donc, on a préféré que ça transite quand même par nos structures. Donc, la troisième solution, c'était de monter une association totalement à part. On aurait appelé Fonds de défense de la neutralité du net, qui aurait été une association totalement étanche, sans aucun lien. Dans ce cas-là, on aurait été trois membres de l'association, Arnaud, moi et Valentin. Puis voilà, c'était une association dans laquelle personne ne pouvait adhérer. Et puis c'était plié, on manipulait nos 50, 100, 200, 300 000 euros sans rendre compte à personne qu'à nous-mêmes. Après tout, finalement, on se fait confiance tous les trois, donc tout va bien, puis vous êtes prié de nous faire confiance pour gérer le pognon que vous donnez, et puis voilà. C'était pas le moyen. Donc on a cherché un montage qui soit sous un contrôle relativement démocratique, qui cependant ne soit pas dans FDN pour ne pas polluer les comptes, qui ne soit pas dans la Quadrature du Net pour pouvoir faire dissoudre la Quadrature en trois jours si on veut. La Quadrature, c'est une association de fait, ça se dissout le jour où ça a dit que c'est dissous. Ça prend une demi-heure de dissoudre l'association, les noms de domaine sont tous déposés au nom propre de quelques particuliers. Voilà, dissoudre la Quadrature, ça prend une demi-heure.
Sont trois dans un garage.
Non, 5 du jour en général. C'est très important. Il tiendrait une idée à la main. Selon la méthode brevetée reconnue de M. Lincoln-Serf. Les trois fondateurs de FDM2, les trois membres fondateurs de FDM2, c'est extrêmement des statuts. Si, pour les gens qui ne les ont pas lus, on a les statuts de FDM2 qui sont là.
Article 5.
Voilà. Article 5, membres fondateurs. Les membres fondateurs sont Benjamin Bayard, Arnaud Luquin et Valentin Lacombe. Voilà. Avec les détails, une naissance, profession, machin. Mais... si ça vous amuse, Valentin est né en 1966, par exemple. Ça fait partie des trucs qu'on apprend.
Valentin est né.
Oui. Donc, après, comment est-ce qu'on engage FDM2? C'est une association dans laquelle à peu près seuls les adhérents seuls les membres fondateurs ont du pouvoir. D'un autre côté, il n'y a pas d'autre pouvoir que celui d'être une trésorerie. La seule prise de décision qui puisse être intéressante, c'est de savoir quel projet on soutient. Pour le coup, on n'a pas trop à se fatiguer sur les débats en ce moment. Il n'y en a qu'un. Il y a à savoir de qui on accepte de l'argent. On s'est très longuement concerté entre fondateurs. On a dit qu'on prenait tout le pognon qui se présentait. Bien après tout, c'est pour aller combattre les malfaisants. S'il y a d'autres malfaisants qui veulent donner du blé, on prend. C'est-à-dire que si Vivendi a envie de soutenir, on prendra. Ça me fera mourir de rire, mais on prendra. Les comptes sont approuvés par l'Assemblée Générale de FDN, c'est pour ça que tout à l'heure, sur les deux lignes que je vous ai données par oral et que vous verrez par écrit sur Internet, je demanderai qu'on vote pour savoir si ces comptes sont approuvés. Oui, tout ça c'est public. La seule chose qui n'est pas publique, c'est les montants.
Je le dirai, conseiller.
Sur le fait qu'on finance la quadrature, officiellement ça devrait être off.
FDN2 finance la quadrature,
mais pas FDN2. FDN2 ne finance pas la quadrature, FDN2, c'est sur le lit. Alors, oui et non. Sur le plan légal, si. Sur le plan légal, le contrat de don, il est bien entre le donateur et FDN2.
Sur projet spécifique.
Les statuts interdisent.
Bien.
Les statuts interdisent que ce soit sur projet spécifique.
Très bien, très bien.
Pourquoi les adhérents de l'ADN devraient les comptes alors que ce soit sur le marché?
Alors, c'est comme ça que sont construits les statuts. Les comptes de FDN2 sont approuvés par l'Assemblée Générale de FDN. Et président de FDN2, statutairement le président de FDN. Vous pouvez ne pas approuver les comptes de FDN2, mais ça revient à révoquer le président. Schématiquement, si vous estimez que j'ai fait n'importe quoi avec l'argent de FDN2, vaut mieux pas que je reste président de FDN. Ce qui me paraît assez cohérent. Si vous décidez de me réélire président de FDN, alors vous considérez que j'ai n'importe quoi avec le pognon sur FDN2, ça vous êtes d'accord avec ce que je fais comme n'importe quoi. C'est un principe de cohérence. C'est très important que les adhérents d'FDN contrôlent ce qui est fait de l'argent de FDN2, simplement parce qu'il y a des gros montants en jeu. On n'a pas encore ouvert de campagne d'appel aux dons publics, mais il va y en avoir sous peu. C'est susceptible de ramener pas mal d'argent. Je vois combien ramenaient les campagnes d'appel aux dons de GlobeNet ou d'autres nets. Vous n'avez jamais demandé des sous pour renouveler votre matériel? Non, je comprends. Il n'y a que GlobeNet qui joue à ça.
Non, il y a des gens qui font spontanément, on ne demande pas. En fait.
D'accord. sur GlobeNet, quand ils demandent de l'argent à leurs membres ou leurs sympathisants pour résoudre quelques difficultés financières, ils lèvent en dizaines de milliers d'euros assez facilement. Sur FDN2 et sur Adopi, si on lance une campagne disant « donnez les sous là pour financer », surtout en cette saison, on ramènerait du blé plein.
Non, c'est la
crise. Et ouais, même.
Justement.
Justement. Il est important qu'il y ait un contrôle démocratique, c'est-à-dire qu'il y ait un contrôle fait de plus que trois personnes toutes seules. Et le contrôle démocratique, il peut être fait que... La seule instance démocratique qu'on ait à notre disposition, ce sont les adhérents de FDN. On ne peut pas ouvrir les comptes à tous les donateurs, ce serait beaucoup trop dangereux. C'est-à-dire qu'il suffit que le cabinet d'Albanel vienne donner 10 euros et ils savent tout ce qui se passe. C'est pas intéressant. On ne peut pas l'ouvrir publiquement sur Internet, ce n'est pas le but. C'est-à-dire qu'on ne veut, pas que, de manière trop simple, on puisse repasser de nos actions politiques à des associations cyberiennes. Il n'y a aucune raison que ce soit affiché trop fort. C'est pas secret.
C'est discret.
C'est juste discret. C'est juste pas écrit en gros. Voilà pourquoi on veut que les comptes soient approuvés. Les comptes sont approuvés par l'Assemblée Générale de la FDN parce que l'argent est géré par le président et le trésorier de la FDN. C'est vous qui gérez comme nous, en fait. Nous, par délégation, mais...
Et sachant que l'ADN, ils ont déjà versé de l'argent pour la quadrature.
Non, on a fait une avance.
Ah d'accord, donc c'est vraiment ça.
On a fait une avance de 1000 euros qui, je ne sais plus si elle a déjà été remboursée ou si elle le sera, mais voilà, ce n'est qu'une avance.
En 2008, elle apparaît dans les plans, vous avez une avance de trésorerie. Elle apparaît,
c'est pas discret. Enfin, même si c'est un prêt. Ça reste un lien entre nous et la quadrature.
Ah oui, mais les liens, ils sont évidents. Là, sur le site de la quadrature, elle vient de soutien. C'est écrit dessus. Mais au même titre que une douzaine d'associations européennes qui soutiennent, au même titre qu'Electronic Frontier Foundation. Enfin, on soutient au même titre que beaucoup d'autres gens soutiennent. Il n'y a pas écrit que l'argent passe par qui.
Enfin, l'argent passe par FDN2. J'ai rien que le nom, c'est
lui. L'argent passe par le Fonds de défense de la neutralité du monde.
Est-ce que l'origine des dons faits à FDN2 est publique?
Non. Elle est communiquée en AG, mais elle n'est pas publique. C'est-à-dire, typiquement, l'info qui est off et qui n'est pas reprise sur IRC, c'est qui a donné combien.
Oui. Est-ce que c'est possible de se faire déclarer publique?
Très 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 compliqué. Schématiquement, tu es reconnu d'utilité publique quand t'es copain avec la préfecture. Nous, ça va pas être simple. Ça va pas être simple en cette saison. Non, parce que.
Il y a une contrepartie aussi. Si c'est déclaré
d'utilité
publique, c'est
qu'il y a
des gens qui
viennent énormément. Oui. Ça nous intéresse que moi, le moment.
C'est un peu plus facile quand on a l'association 1905 dans la Meurthe-et-Moselle.
Donner la possibilité aux donateurs de récupérer en économie d'impôt le montant de leur don.
Alors ça on va le faire.
Pour l'instant, Soros.
Alors ça on va le faire, mais pas pour Soros. On le fera pour d'autres. On va faire le nécessaire. Il n'y a pas besoin de la reconnaissance d'utilité publique. On va beaucoup plus travailler sur le côté philanthropique et l'air de rien, si tu lis les statuts, l'objectif de l'association est de défendre la liberté d'expression sur le net. Ça, en philanthropique, tu peux pas faire mieux. Donc on va faire le nécessaire pour se déclarer auprès de l'administration fiscale pour que nos donateurs puissent bénéficier des abattements fiscaux correspondants.
Et
alors, si, ça devrait passer.
Les Américains qui donnent de l'argent à Soros, pourquoi ils le font enfin...
Ah, alors la fondation Soros, dont le vrai nom, alors ça se trouve sur soros.org, le vrai nom complet c'est l'Open Society Institute. Donc George Soros c'est un milliardaire américain qui s'est fait des couilles en or en spéculant à la bourse, qui est un des plus doués en la matière.
Les plus doués de Madoff.
Ouais, les plus doués de Madoff, plein. Non, ça c'est public, c'est sur soros.org. Vous pouvez aller regarder. Et qui a une vision du monde qui dit qu'en gros, lui, ce à quoi il croit, c'est ce qu'il appelle l'Open Society, en référence à je ne sais plus quel philosophe, j'ai oublié le nom. Voilà. Et donc, il a confié une partie non négligeable de sa fortune personnelle acquise en bourse à une fondation, donc à quelque chose qu'il ne contrôle pas. qui a comme but de défendre et de faire le nécessaire pour essayer d'arriver à une open society, à une société ouverte. Dans les choses qu'ils défendent régulièrement, il y a tous les combats pour la liberté d'expression dans les pays pauvres et ou pas démocratiques, il y a les financements des bouts de révolution démocratique dans les pays de l'Est, ils ont financé la révolution orange en Ukraine par exemple. Donc ils financent des gros machins. Et en général avec des valises pleines de billets, qui transitent en liquide, parce que ben voilà, quand tu veux essayer de financer de la liberté d'expression dans un régime totalitaire en Afrique, c'est plus simple d'y aller avec des billets. Et donc, ils ont regardé ce qui se passait au départ autour du paquet télécom et de la riposte graduée, qui représente pour eux, dans leur avis, une atteinte très grave à la démocratie, au modèle de société ouverte. Et ils se sont dit que ça coûterait moins cher de subventionner quelques activistes pendant que ce n'est pas encore fait pour essayer de défendre la démocratie plutôt que d'essayer de la réinstituer après.
Ils sont venus, c'est eux qui ont commencé à devenir.
Et c'est eux qui. Alors je ne sais plus qui a contacté l'autre, mais il y a un contact qui s'est établi. Je crois que c'est eux qui ont contacté la Quadrature du Net et qui leur ont dit voilà, ce que vous faites c'est bien, c'est juste indispensable, est-ce que vous voulez qu'on finance ? Et ils financent sur des budgets qui sont élevés. Enfin, on parle de 20 millions de francs quand même. L'idée est, ça coûte beaucoup moins cher d'essayer de sauver ce qu'on peut de démocratie à l'heure actuelle que d'essayer de le réinstituer dans 20 ans. Mais il y a une conséquence, hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui considèrent que la France est en train de sortir de la démocratie au même titre que la majorité des pays totalitaires et qu'on a besoin d'une assistance pour redémocratiser. C'est vachement lourd, hein, comme truc. C'est pas bon pour nous. Hein.
C'est hélas réaliste.
Oui, c'est hélas réaliste, mais c'est pas bon pour nous. Quoi. Enfin, ça s'est vu, je veux dire. Nos abris standards, ça finit par se voir. Donc pourquoi il y a du off engagé sur la FDN2 ? Ce sera plus formel l'an prochain parce qu'il y aura une vraie compta avec des vrais sous, il y aura un peu plus de lignes dans la comptabilité. Simplement parce que ces infos-là n'ont pas à être publiques. En particulier, la liste des projets financés n'a pas nécessairement à être publique et la liste des donateurs est privée.
Vous êtes premier membre de la FDN2 ?
Non. Alors si tu lis les statuts, tu verras que quand tu donnes des sous, tu es membre donateur, ce qui te donne le droit d'être reconnu comme membre donateur.
Si tu te présentes au poste de président, tu pourrais devenir membre.
Non.
Est-ce qu'il te donne le droit d'avoir accès aux comptes financiers, sauf si il y a un projet secret.
Voilà, donc ça permet d'avoir accès à la partie publique des comptes. Bah après, on décide de ce qui est public ou de ce qui est privé.
Ils achètent
tout le monde, par exemple.
C'est super public.
Donc voilà, l'objectif de FDN2, c'était d'essayer de trouver ce montage-là où on garantisse un contrôle démocratique par l'Assemblée Générale de FDN, avec le peu de démocratie dont FDN est capable, hein, c'est-à-dire que j'ai 50% des voix, moi tout seul, parce que les gens me font confiance. Mais ça reste sensiblement démocratique. Que je pense que si je les connais complètement, j'aurais plus 50% des voix, moi tout seul. Donc il y a un minimum de contrôle de ce qui est fait avec les fonds. Il y a cependant toutes les barrières techniques pour empêcher que qui que ce soit puisse mettre la main dessus. C'est-à-dire que si un groupe, quel qu'il soit, veut s'approprier les fonds simplement en devenant majoritaire dans FDN, ça ne suffit pas, puisque les membres fondateurs ont la capacité de dissoudre l'association. Donc, soit la GDFDN peut considérer que ça part complètement en sucette, cette affaire-là, et vote la dissolution de FDN2, soit c'est au contraire l'Assemblée Générale de FDN qui commence à partir en sucette parce qu'il y a eu des milliers d'adhésions et qu'on les a laissés passer. On les a laissés rester un an pour qu'ils obtiennent le droit de vote et qu'ayant obtenu le droit de vote, ils ont pris le pouvoir. Et dans ce cas-là, on a un bouton rouge pour détruire l'association. Et ça me paraît un équilibre pas mal. Parce que l'entrisme dans le milieu associatif, ça s'est déjà pratiqué. C'est déjà fait. Je ne donnerai pas de mots, mais du côté de Soissons, c'est une tradition locale. Oui. Donc voilà, pour le moment, le bilan du Fonds de défense de la neutralité est net, financièrement très bon. Niveau résultat, activisme produit, moi je suis fort satisfait, même si je n'ai pas fait grand-chose là-dedans. Je n'ai fait que signer les virements. Je ne sais pas si vous, ça vous paraît bien ou pas. Voilà, il y a eu un gros travail de fait. La partie que vous voyez beaucoup, qui est la lutte contre Adobe, elle est importante. Une partie que vous voyez moins, c'est celle contre le paquet télécom, et qui est beaucoup plus importante. Le vrai sujet critique, c'est le paquet télécom, ce n'est pas Adobe. Adobe, c'est pour les gens.
Bah, oui. Il y a un truc qu'il faut repérer, c'est qu'à partir du moment où nos chers ministres et nos chers députés nous insultent en assemblée, c'est qu'a priori on a fait un lobbying déjà efficace. Ah, pas cher. Question d'amendement, on explique que voilà, les dangereux lobbyistes de gauche ne se rendent pas compte à quel point on va détruire une si belle loi équilibrée.
Oui,
voilà,
ouais,
c'est ça.
Okay.
On est très bien cette fois.
Rééquilibré. Pédagogique en fait. C'est la dernière fois, il était beaucoup équilibré. Mais sur ce millésime-là, c'est en effet et pédagogique.
Oui, c'est ça.
C'est les mots clés.
Mais il y a quoi d'autre comme projet à part la fois aujourd'hui le paquet télécom, un outil, ce comme ça, il y a autre chose.
Alors, pour le moment, les deux sujets sur lesquels bosse la Quadrature sont le paquet télécom, c'est de là que c'est parti. Il faut repérer qu'en première lecture sur le paquet télécom, ce qu'on a réussi à faire sauter avec les 20 000 euros de budget qu'on a discuté tout à l'heure, ils avaient mis le trusted computing dans le paquet télécom. C'est joli, je ne sais pas si tout le monde s'y tue. Le fait qu'un ordinateur ne puisse exécuter qu'un programme qui a été signé par une autorité habilitée à signer les programmes, qui a priori serait du côté de Redmond, probablement sous la belle Microsoft,
IBM,
enfin bon. Donc c'était directement la fin du logiciel libre de manière formelle. Ça, on a réussi à le rattraper. Ils avaient réussi à enquiller pas mal de choses autour de la neutralité du réseau. Donc le filtrage autorisé aux opérateurs, en gros, sans contrôle. Un opérateur a le droit de filtrer les contenus qui ne lui plaisent pas. Ça donne des trucs assez curieux. Ils avaient introduit dans le paquet télécom l'obligation pour les opérateurs de filtrer les unlawful content. Démerde-toi avec ça, à comparer avec l'obligation de neutralité des réseaux. Donc on lutte beaucoup. On a réussi pour le moment à faire supprimer tout ce qui tournait autour du trusted computing. On a réussi à faire dégager la première lecture l'immense majorité des projets de filtrage. On a réussi à faire rentrer par amendement lors de la première lecture le fameux amendement 138 de Guy Bonneau, un bout de texte qui rappelle les droits fondamentaux et qui dit que voilà, couper l'accès à Internet, ça ne peut pas être une sanction de quoi que ce soit. C'est pas autorisé. Donc c'est interdit à un peu gravé. L'amendement en question a été retiré quand le texte est passé devant le Conseil européen, c'est-à-dire la réunion des différents chefs de l'État. Le paquet télécom sera en deuxième lecture le 22 avril au Parlement européen. La liste des amendements sera bouclée la semaine prochaine. Il y a ce qu'ils appellent le trialogue lundi, où il y aura autour de la table grande, les représentants du Parlement, les représentants de la Commission, les représentants du Conseil, donc les chefs d'État, les commissaires européens et le Parlement européen pour essayer de se mettre d'accord sur une série d'amendements qui seront tous estampillés comme étant de consensus et donc qui seront votés quasiment à l'unanimité sans l'ombre d'une discussion. Donc, tout va se jouer lundi. A priori, ça pourrait assez bien se passer. On a bon espoir. Pour le moment, on en est à se battre, à se chamailler avec les lobbyistes d'AT&T. sur le fait de savoir comment on définit dans le paquet télécom les politiques de management de réseau qui sont acceptables ou pas acceptables. Donc on est quand même beaucoup redescendu par rapport à ce qu'il y avait l'été dernier où on en était à ils font ce qu'ils veulent. Pour le moment, ça s'orienterait vers, si tout va bien, le fait qu'un opérateur a le droit de traiter les congestions sur son réseau du moment qu'il ne favorise pas ni ses propres intérêts, ni les intérêts de ses partenaires commerciaux. Ça s'orienterait vers un truc comme ça. Qui est ce qu'on peut faire moins pire, pour le moment.
De la vidéo qui a été censurée, enfin coupée sur un opérateur, qui a demandé le Numéricab, parce que le Numéricab avait des actions dans la boîte, c'est un gréviste qui a été renversé par la voiture du patron.
Téléliberté.
Oui, c'est ça. Et donc la vidéo, là, elle a été reprise par une association qui s'appelle Regard à Vue, pour la mettre en ligne. Bon, il y aura vraisemblablement des pressions aussi sur l'hébergeur, etc. Voilà, mais ça a été coupé de YouTube de partout quand le contenu censuré ne répondait pas aux normes, à la demande de les patrons numériques.
Ah, mais ça, l'hébergeur. YouTube héberge ses propres données et fait bien comme il a envie.
Oui, non, mais ça a été retiré de partout. Quoi. Je veux dire, c'était la W, je ne sais plus qui les hébergeait avant.
Mais là, pour le coup, c'est la question des hébergeurs. C'est pas du tout.
Oui,
si tu veux, c'est pas Orange qui a filtré le contenu, c'est l'hébergeur qui a décidé de le retirer de la plateforme. C'est voilà. Pas le même sujet.
Et c'est après les pressions qui ont été faites, c'est parce que tu parlais des pressions.
Oui.
C'est pas l'Américain qui a dit mes abonnés, ils n'accéderont pas à cette vidéo.
Ça a été
le réseau lui-même est resté neutre.
Voilà, le réseau lui-même est resté
neutre. Ah ben après, si tu veux m'expliquer à moi que le réseau centré qui est Minitel, c'est contrôlable par n'importe quel compagnon, on va être d'accord. Hein. Non, tu sais bien, Chantal, quand...
C'était juste parce qu'en ce moment, il cherche des relais, quoi. Voilà.
On sera ravis d'héberger la vidéo en question.
Je pense que...
Ravi. On a plein de machines sur lesquelles la mettre, dont certaines qu'on peut trouver au
même l'idée, c'est que ça soit sur plein de
hébergeurs différents. Rare, enchanté.
Tu peux l'inviter, il y a du transit numérique, ce serait drôle.
Oui, un pari modulé, tu l'héberges sur du transit numérique, ça va être bien rangé.
Peut-être
hébergé
sur une machine numérique.
Oh, ce serait possible.
On va encore parler des trous et des lettres.
Je peux transmettre ton mail, disons, avec les deux
monsieur. Ouais.
D'accord.
Est-ce qu'il y a encore des questions sur FDM2 ou est-ce qu'on passe à la suite? Oui, Joseph.
Ouais, j'ai pas très bien compris l'opacité et l'entretenue.
Moi. Bon, quand même.
À peu près tout le monde, oui. Ça me paraît pas intéressant que le geek moyen trouve sur la page d'accueil de la Quadrature tout le détail du montage financier. Voilà.
En fait, pour faire plus simple, à part les adhérents des IBM,
on ne souhaite pas communiquer dessus. Ça ne veut pas dire que c'est top secret et que si tu en parles à ta petite sœur, je vais te tuer. Ça veut juste dire qu'on ne souhaite pas communiquer dessus, on ne souhaite pas le mettre en avant. On laisse régulièrement entendre qu'il y a une certaine proximité. Il est très clair qu'on se connaît et qu'on ne le nie jamais. Généralement, à chaque fois que les journalistes m'ont demandé si je connaissais des gens de la Quadrature, la réponse est oui. Je discute très régulièrement et je débat très régulièrement avec Jérémy Zimmermann. Voilà. Je n'ai pas à répondre plus. Je ne réponds pas plus.
Donc là, c'est juste pour les protéger, quelque ça.
C'est une protection réciproque.
Ça reste au cul.
Alors, d'abord, il y a un côté très pratique qui est que quand on est entendu par les commissions parlementaires qui auditionnent avant Hadopi, Jérémy Zimmermann, il arrive en tant que cofondateur de la Quadrature du Net, il y va avec la masse d'armes, il rentre dans l'art de tout le monde. Et il est là en tant qu'activiste citoyen militant qui vient représenter des citoyens pas contents. Donc il vient pas content et puis pas content, puis il râle. Okay. Moi, j'arrive, j'ai été auditionné aussi par la rapporteure pour avis de la commission culturelle. D'abord, j'arrive en costume, ça, c'est important. Moi, je suis président d'un fournisseur d'accès à Internet associatif. Donc, je suis reçu en même temps que Olivier de Bayens, qui s'occupe des affaires juridiques chez Free, en même temps que le patron des affaires juridiques de France Télécom, en même temps qu'un des membres du collège de l'ARCEP, en même temps que le patron de la Fédération française des télécoms. Voilà, moi, dans tout ce beau linge, je viens expliquer, dans le lot, je suis le seul qui soit élu par mes abonnés, et je vous explique, votre projet, c'est la merde. Un tout petit peu plus poliment.
C'est pas le même thème que j'ai
donné. Mais voilà, je prends.
C'est deux fois.
Voilà, ce sont deux approches totalement différentes. Moi aussi, je viens de la société civile. Je suis payé par personne. Je suis là en tant que bénévole président d'une association. Mais vis-à-vis des députés, je ne suis pas la même société civile. Lui, il représente les geeks et les no-life. Moi, je suis président d'une association.
Et quel rapport à la protection réciproque,
justement, si tu essayes, celui qui emmerde le plus le monde, c'est quand même lui, parce que c'est lui qui fait du bruit.
Ouais.
C'est lui qui sort des communiqués de presse tous les trois jours. C'est lui qui fait 50 interviews dans la journée quand le débat ouvre à l'Assemblée. S'ils cherchent un jour à lui nuire, ils vont chercher à torpiller la quadrature du net.
Ouais, ouais,
ben, je veux pas que ça torpille le terrain. Et si la quadrature, c'est la quadrature, c'est une association.
C'est une protection de nous vers lui, quoi. Enfin, on le protège.
Oui.
Et il nous protège.
Et il nous protège, c'est-à-dire que quand on va essayer de lui tirer dessus, ça ne nous atteindra pas. Ouais, ça n'atteindra pas la quadrature.
D'accord, on le protège, donc.
Non.
C'est pas à tout sens, quoi.
Ça nous protège. Et ça le protège parce que si la quadrature doit exploser parce que ça tire dessus, ben on dissout la quadrature, une demi-heure après, on va monter une autre association, ce sera la triangulation du net, qui sera une association de fait, avec comme cofondateur, je peux déjà te les citer, Jérémy Zimmerman, Benjamin Sontag, blablabla, on trouvera un ou deux nouveaux à mettre, je ne sais pas, on mettra Gilus, on se débrouillera. Et il y aura une nouvelle association de fête avec des nouveaux cofondateurs. Et curieusement, FDM2 financera un autre projet, dis donc. Secret, hein. Voilà. Elle est là, la protection. On a sécurisé les fonds.
Toujours sur le siège de FDM2, donc Nick, sur le fait qu'il n'a pas eu l'impression d'avoir assez d'impôts sur justement la création, etc., de FDM2. Il avait l'impression que c'était juste un projet et que ça allait un peu vite.
Ah non,
c'est pas là. Ça nous est venu l'idée en picolant au MLL et c'est chuché en sortant de l'MLL.
Non, je veux répondre à la question de Mille, de Nicolas Lemar sur le sujet. FDM2, on l'a annoncé sur la liste AG, où on a diffusé les statuts. Je me souviens qu'il a participé à ça. Je me souviens qu'il y avait eu des remarques de Michael, qu'il y avait eu des remarques de Jean-Charles, qu'il y avait eu des remarques de Nicolas, qu'il y en avait d'autres. Il y avait 5-6 personnes qui avaient fait des remarques sur la rédaction des statuts. Toutes les remarques ont été prises en compte. Les statuts ont été déposés, alors ça a été discuté juste après les RMLM, donc ça devait être en septembre. Les statuts ont été déposés en octobre, le compte en banque a été ouvert en novembre. Mais ce qui était sorti de la discussion sur la liste AG, c'est qu'il y avait des demandes de modification qui ont été prises en compte, et que donc, a priori, il n'y avait plus d'opposition, donc il y avait accord.
En fait, ce que veut dire Amir, c'est que peut-être qu'il n'y a pas eu assez de communication auprès des adhérents autour de la création, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a une discussion sur les statuts et tout. Et lui, justement, il se demandait, est-ce que, au final, quels ont été les statuts retenus, etc.
Les statuts retenus, je les republierai s'il faut. Les statuts retenus, c'est ceux qui ont été diffusés en ligne, plus les trois demandes de modif qui avaient été faites. Alors, je ne sais plus quelles étaient les plus importantes, mais les trois demandes de modif ont été faites.
Il n'y avait pas eu assez de retours sur la KV là-dessus.
Il faudrait quand même qu'on place les statuts à côté des.
Oui. Ah, mais les statuts de FDM2 sont publics. Hein, eux, ils sont mis en ligne sur le site de FDM2, il n'y a pas de souci.
Et donc, en fait, vu que c'est quand même l'Assemblée Générale de FDM qui donne sa légitimité démocratique, entre guillemets, à FDM2,
oui.
J'aurais aimé avoir un peu plus d'informations, en fait. Je pense que, effectivement, il y a.
qui a un sentiment qu'il n'y a pas eu, il y a pas eu assez d'infos données sur la gestion. Ce n'est pas forcément le fait que l'M2 fait une mauvaise chose ou quoi, c'est plus le fait que... mais justement que...
Pour le coup, la liste AG étant quand même... alors elle n'est pas publique, mais elle est très ouverte. J'évite de donner trop d'infos. J'en donne suffisamment, autant que je peux, je ne veux pas donner trop de détails.
S'il vous plaît. Roger Le Rentaire, oui. J'ai suivi également tous ces mails. Mmh. Il y a eu beaucoup de mails sur Airbnb.
Oui.
À un certain moment, c'est même trop, à mon avis, mmh. Et j'ai dit, bon, ok, je vais le mettre de côté. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y a pas eu de communication. Oui. Moi, s'il y avait assez.
En fait, ce dont Nicolas Limard a eu l'impression, c'est qu'il y avait un projet, il y a eu une discussion autour de ce projet, et il a pas su à quel moment c'était concrétisé, en fait, et là, il a l'impression du coup un peu que ça s'est concrétisé.
Pour moi, c'est...
sa question directement, et qui me met sur l'AG, c'est pour ça, on peut simplement répondre.
Il a raison quand il dit qu'on n'a pas envoyé un mail en très communiquant en disant c'est constitué, c'est machin, c'est tout. C'est
oui, j'ai peut-être pas envoyé le mail disant ça y est, c'est déposé. Enfin,
mais
bon,
mais peut-être.
Oui, oui. Je me souviens que c'était assez terminé.
Ouais. Il me semble bien avoir.
Mais il n'y a pas eu formel.
C'est sûr, en fait, ce truc-là. Il y avait beaucoup.
Je crois, ce serait vraiment à vérifier pour le coup, mais je crois vraiment avoir posté à un moment, j'ai intégré tel modif, les statuts sont déposés.
Oui,
après, une fois qu'on a dit publiquement les statuts sont déposés, ça veut quand même bien que l'association existe et qu'elle fait ce pour quoi elle est faite. Hein. Parce que vous parlez tous en même temps, celui qui n'a pas de micro, on n'entend pas.
L'adhérent moyen de l'FPM, moi je par exemple, l'FPM2 ça ne me donne rien. Donc
si ça t'engage.
La mutuelle de tout le monde ou pas, ça ne change rien. Bien, bon, puisque,
si ça t'engage.
Ça m'engage à voter à l'AG de l'FPM, mais j'ai pas de. Et à être au courant de ce qui se passe à l'FPM2.
Si, parce que tu vas approuver les comptes.
Si, c'est toi qui va approuver les comptes et c'est toi qui va approuver globalement ce qu'on finance comme projet et ce qu'on soutient. C'est-à-dire si tu estimes par exemple que ce très beau projet de parti néo-nazi que nous soutenons dans la région de Bretagne, il faut qu'on arrête de le financer, ben, le jour où on soutiendra ça, il faudra que tu viennes voter contre. Il faudra que tu viennes révoquer le président. Et ce sera important.
Ça donne quoi comme responsabilité d'approuver les comptes?
Simplement que tu es d'accord avec ce qui se passe, c'est tout.
Tu es solidaire?
J'en ai solidaire.
Est-ce qu'on doit enfin. Voilà. Ce que tu disais, je pense, c'est qu'après, qu'est-ce qu'on peut venir te reprocher à faire?
Rien.
Bon, t'as financé les nazis, peut-être c'est en Bretagne, mais là, le projet.
Or, c'est principalement ta conscience que ça doit venir.
Ouais, voilà, d'accord.
Normalement.
Après, si on finance vraiment des activités illégales et que tu as approuvé les comptes, tu en es co-responsable.
Ah oui.
Tant que les comptes ne sont pas approuvés, c'est juste le trésorier ou moi qui avons débloqué et c'est nous qui avons en prison. Si les comptes et le bilan moral et sincère, c'est que si je vous ai vraiment raconté ce qu'on a fait et que vous l'avez approuvé, vous en êtes co-responsable. Si je vous ai menti, c'est autre chose. C'est moi qui ai menti. Mais si je vous ai vraiment raconté ce qui s'est fait et que vous l'avez approuvé, vous en êtes co-responsable.
Après, sur le terme sur le plan financier, si je m'étais regardé un peu, il y a eu en fait des jurisprudences qui sont passées, il y a notamment la dernière, c'était il y a 10 ans, qui stipule clairement que l'adhérent de l'association ne prenant pas part au bureau ou aux organes décisionnels ne peut être poursuivi sur ses biens propres. En cas de grosse perte d'argent. Mais c'est récent, hein. C'est une dizaine d'années. Quoi.
Et sachant que même les membres du bureau ne peuvent être poursuivis, facilement, par contre, en général, ne sont condamnés qu'en cas de malversation. C'est-à-dire que si simplement l'association est déficitaire, ça ne suffira pas, parce qu'on nous demande de rembourser.
Si c'est pas une faute de gestion, ça se comprenne.
Je ne sais pas quoi faire là.
Bien. Pour la forme, je vous propose qu'on mette au voie l'approbation des comptes de la TN2.
Ah ouais, là, tu vas lui.
Ça, je reprends la méthode de tout à l'heure ou ensemble? Elle est bien, qui est contre?
Vous en souvenez ou je vous rappelle? Ça peut penser aux assemblées générales étudiants. Alors, qui est pour le projet de loi du gouvernement? Contre la grève et la main, la main, et puis après, bon, et les autres? Mais sinon, je pense qu'il y a pas de problème pour là.
Donc, qui est contre, qui s'abstient? Donc, on peut considérer que les comptes sont approuvés pour 2008.
Les autres? Ils s'abstiennent pas de
compte, par priori. Il y a des gens pour un nouveau. Merci. Tu veux faire tu comptes? Ok. Je ne vois pas comment faire merci pour trouver des comptes dont ils n'ont pas eu mes chiffres. Bien. Non, il y a quand même une question de bon sens. Un point qui n'a pas été examiné, qui moi m'intéresse beaucoup, c'est bien là qu'on va évacuer. Alors, je vais évacuer celui-ci là. Suivi des services existants, l'hébergement, on héberge deux machines pour des adhérents, ça se passe bien, on n'y perd pas d'argent, on n'en gagne pas vraiment non plus. ADSL, on héberge à peu près, on connecte à peu près une centaine de lignes ADSL, dont je crois une quinzaine pour des connexions, ou une vingtaine. Ça augmente tout doucement, moins vite que le nombre d'adhérents. Puisque en général, les gens, quand ils ferment leur ligne ADSL, FDN, restent adhérents. Donc on a de plus en plus d'adhérents, même si on a un nombre à peine croissant de lignes ADSL.
Juste un point pour préciser sur justement les adhérents qui n'ont pas de ligne. C'est pas forcément très clair quand les gens se renseignent sur FDN. Souvent, FDN est perçu comme un fournisseur d'accès Internet. Et les gens pensent que pour adhérer à FDN, il faut prendre une ligne ADSL. On peut très bien être adhérent sans avoir de ligne ADSL, on peut soutenir notre IDL. Plus on est nombreux, mieux c'est. Donc si jamais vous connaissez des gens qui sont intéressés, qui voient qu'IDL c'est bien, ça leur plaît, mais qui ne veulent pas avoir.
Question bête, histoire de vous aider à situer, qui dans le bureau n'a pas son abonnement internet chez FDL?
Le bureau
des... Alors dans le bureau. Voilà. Et qui dans le bureau a son abonnement internet chez FDN, on est trois.
C'est pas
le même. C'est pas le même. D'accord. Donc, et même là, si je demande qui n'a pas d'accès internet, qui n'a pas d'accès à ADSL chez FDN, voilà, vous n'êtes pas si marginaux que ça. Et dans l'association, 160 adhérents, 85 lignes ADSL, c'est 50-50. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme activité? C'est à peu près tout. J'ai déjà parlé de nos grands espoirs pour 2009 d'essayer de voir émerger un deuxième FAI associatif en province sur un modèle similaire à celui de l'FDN.
C'est-à-dire similaire à l'FDN?
Une association qui fournisse de l'accès à ses membres, uniquement à ses membres, qui soit réellement gérée comme une association et dont les membres ne soient pas passifs. Et qui ne soit pas. Dieu, j'ai une sympathie énorme pour nos logs, mais ce n'est pas la même chose.
Ok, ok. Ah, c'est pas technique, c'est.
C'est vraiment pas la même chose. C'est très bien ce que fait nos logs, mais ce n'est pas la même chose que ce que fait.
C'est intéressant.
Et faire émerger des petits FDN, alors petits parce que plus jeunes, hein, pas, mais s'ils sont plus nombreux que nous, tant mieux. Faire émerger des nouveaux FDN, ça me paraît une bonne chose. Voilà.
Et ton éventuelle idée de fédération, on parle de
ça. Alors, ça c'est une grande question. Déjà, il faudra qu'il y ait quelque chose à fédérer, ce sera quand même le premier tome. Mais c'est probablement le seul travail statutaire qu'il faudra faire cette année, c'est de préparer la transformation en fédération.
Fédération
Une fédération, c'est un statut spécial ou c'est une association comme une autre ?
C'est une association d'associations, c'est tout. Mais il faudra réfléchir à comment tu désignes le président fédéral, comment tu répartis les voix, est-ce que c'est une voix par FAI, est-ce que c'est autant de voix que de membres ? D'un autre côté, est-ce que quelqu'un qui décide de faire rentrer les membres à gratos, histoire d'en avoir beaucoup pour prendre toutes les voix, on laisse passer ou pas ? Voilà, il y a un peu de tirage sur la nouille à faire. Faut travailler le machin. Il y a un vrai besoin cependant de fédération parce que il y a pas mal d'infrastructures essentielles qu'on ne peut pas dupliquer, en particulier une association qui voudrait se lancer dans de la DSL, on ne peut pas dupliquer le contrat de collecte. C'est très clair, personne d'autre n'en aura dans les années qui viennent. On a regardé un petit peu ce qui peut se faire ailleurs, c'est vraiment pas gagné. Même chose, l'entrée dans le citoyen représente une grosse marche pour une nouvelle association. Sauf si elle est adossée sur une autre activité. Donc voilà, il y a une vraie complexité.
Et ça fédérerait qui ? Quel genre de...
Les associations qui le souhaitent. L'idée, par exemple, c'est que si on se lance, si on arrive à monter quelque chose, genre expérimentation sur de la fibre optique à Amiens, il y a deux solutions. Soit c'est FDL qui porte, et on met un peu plus de trucs dans FDL, soit on monte un FDL Amiens, dédié fibre optique. Mais d'un autre côté, il n'y a pas d'intérêt majeur à ce que ce soit à réimplémenter entièrement le SI, à racheter des machines toutes neuves, à... etc. Il est plus intéressant de fédérer tout ça par un moyen ou par un autre, de faire en sorte de remutualiser les accès aux citoyens, de mutualiser tout ce qui peut l'être. Il n'y a pas d'intérêt à payer 4 fois les frais bancaires, par exemple.
C'est-à-dire qu'une association qui s'est montrée sur Amiens pour la fibre et qui passerait une convention avec FDN pour l'hébergement du SI, par exemple, ou des choses comme ça, ce serait une autre façon de faire à peu près pareil.
Ça pourrait être fait comme ça, simplement. Ça voudrait dire que FDN serait maître d'une infrastructure essentielle.
Oui.
Les citoyens et le SI et les machines, etc. Et sur lesquels les adhérents de FDN Amiens n'auraient aucun pouvoir, ce qui est démocratiquement très léger. Alors que si tu décides de faire une fédération FDN dans laquelle il y a FDN National qui serait l'historique et FDN Amiens qui serait le petit nouveau, chacun ayant un nombre de votes proportionnel à son nombre d'adhérents, tu obtiens un truc à peu près démocratique. D'accord ? On pourrait imaginer que le bureau fédéral, du coup, soit élu par chacune des associations. C'est-à-dire que chacune des associations, lors de son AG, vote pour le bureau fédéral, vote pour son bureau propre et pour le bureau fédéral.
Alors, une question.
Oui.
Fédération de qui souhaite, c'est-à-dire Blocnet,
L'idée est de monter, c'est de transformer FDN en une fédération d'associations qui se ressemblent. Et où, pour le coup, tu ne rentres pas dans une fédération comme dans un moulin.
D'accord. Donc ça ne fédérerait pas n'importe quelle association.
Non, ça fédérerait celle des associations que la fédération souhaite fédérer et qui souhaite se fédérer.
C'est sur le modèle FDN au niveau fonctionnement.
C'est tout à fait sur le modèle FDN au niveau fonctionnement.
Ça permet une mutualisation des ressources, parce que là, du coup.
En fait, ça permet de mutualiser les infrastructures essentielles sans pour autant rentrer dans une relation client-fournisseur. C'est plus simple.
Puis on passe un cran aussi en termes de représentation.
Et pour le coup, tant qu'on est deux, ça n'a pas d'intérêt. Si on commence à être 6 ou 7, quand tu vas voir les députés et que tu dis voilà, je suis président de la fédération machin qui fédère 7 FAI associatifs, dont celui-là, ça a un sens. Mais une fédération, c'est pas un open bar. Oui, mais c'est comme la Fédération française de football, elle ne fédère que les clubs de football.
Elle fait tout sauf du foot.
Désolé
d'être pénible, mais je veux bien comprendre de quoi on parle. Là, tu es en train de nous dire, ok, ça va arriver cette année.
Ça pourrait arriver cette année.
De toute façon, nous, on... C'est quoi le... Il n'y a pas besoin d'un vote, il faut un truc.
La question, c'est qu'est-ce qu'on en fait, comment on le fait, quels sont les points clés. Personnellement, je pense que c'est une bonne idée. C'est pas la première fois que j'en parle, ça doit faire 5 ans que j'en parle. Est-ce qu'on transforme FDN en fédération ou est-ce qu'on crée une fédération de toutes pièces au-dessus? Je ne sais pas. Typiquement, pour moi, ça devrait être la fédération qui devrait être membre de citoyens et non pas FDN. Ce qui veut dire que dans ce cas-là, il vaut mieux transformer FDN en fédération. Mais comment on gère le fait qu'il y ait des adhérents à plusieurs niveaux dans la hiérarchie? Enfin, voilà. Il y a des tas de questions comme ça qui vont devoir être traitées. Je pense qu'on les traitera essentiellement par des moyens techniques, qui ne font pas tellement débat. C'est-à-dire savoir comment on rattache les adhérents à quelle structure, ça ne me paraît pas être une source de débat super intéressante. Par contre, il y aura des débats intéressants. Je ne pense pas qu'on puisse voter tout de suite maintenant là-dessus, parce qu'il n'y a pas de texte et qu'on n'a pas de... Il n'y a pas d'urgence. Et qu'on n'y a pas réfléchi. Puis, voilà, c'est...
D'ailleurs, on proposera la loi en urgence.
Oui. voilà, attendez-vous à ce qu'il y ait, à un moment dans l'année, une vraie discussion de comment on fédère les gens qui souhaitent se fédérer. Oui.
Tu parlais, je me demandais pourquoi c'était plus concentré sur la fibre. C'est justement parce que tu disais que la collecte à l'ASM, aujourd'hui, c'est plus très possible d'essayer d'avoir un contrat pour une association locale.
Si, donc... ça peut de manière locale. Un contrat national, il n'y en aura pas.
D'accord.
Et
FDN en a eu un, parce qu'il
est au
moment.
Non, FDN en a eu un parce que je travaillais chez CGTL et que j'ai été tapé sur la gueule du commercial de la division opérateur jusqu'à ce qu'il signe. Et je lui ai très clairement fait entendre que s'il ne signait pas, c'est d'autres clients qui en panne. Non, c'est pas si vrai que ça.
Je vais même aller un peu plus loin. Si on a, grosso modo, les seuls maintenant qui acceptent de faire de nouveaux contrats de collecte, c'est CGTL, hormis les BSP régionales. CGTL nous dit clairement de la DSL, oui, fait chier, maintenant on fait de la fibre.
C'est plus facile d'avoir des collectes. Enfin, si on voulait localement monter les faillites, ce serait des faillites fibres, hein, c'est plus facile à monter.
Ah non, localement, il y a des choses à faire. Localement, ça va être simple, mais si tu veux, sur le même modèle qu'ADN, dire, voilà, nationalement, file-moi ton numéro de téléphone, je te dirai si je peux te raccorder. Ça, c'est des contrats qu'on n'arrivera plus à trouver. Surtout quand tu pointes en te disant que tu as une profonde vision d'une volumétrie d'environ 15 lignes. Je te dis 15 millions, ouais, ça me va, non, 15.
15 000.
Et là, je te prends, bah, c'était chouette. Voilà. Et de toute manière, ils te disent, la DSL, maintenant, comprends-tu, c'est nul, maintenant, on fait de la fibre.
Parce que, enfin, moi, j'avais
un autre FAI associatif qui se montrait. Est-ce qu'il FDN pourrait lui faire profiter de son contrat?
Oui, c'est l'idée, oui.
Voilà.
Il y a deux idées sous-jacentes à la fédération. La première, c'est s'il y a d'autres réseaux qu'il faut gérer de manière locale. L'exemple type, c'est les bouts de fibre qu'on espère peut-être gérer la main. Là, c'est un autre réseau, il faut signer d'autres contrats avec d'autres partenaires, c'est purement local, je ne vois pas l'intérêt de piloter ça depuis Paris. Encore Amiens, c'est pas loin, mais typiquement les bouts de fibre en Bretagne, il y a 3 heures de TGV. Je vais pas faire 3 heures de train pour aller signer un contrat à la con, rentrer chez moi. Enfin, il vaut mieux que ce soit une association locale qui le gère.
Justement, enfin, moi je suis dans et j'ai essayé de avec des amis sur comment monter sur elle, peut-être quelque chose.
Voilà. Donc c'est beaucoup plus intéressant que ce soit géré en local par des gens du cru, qui parlent la langue, qui connaissent les mœurs. Enfin, moi, les voix pourries du côté du Pays de Vannes, si tu veux.
Des vaccins,
non, c'est pour ceux qui savent pas, c'est une référence à Camelot. Les mots pourris du pays de Vannes. En particulier sur les choses que je faisais. Donc voilà, s'il y a un projet local, il vaut mieux qu'il soit traité localement. Et je pense que si tu essayes de monter un truc sur Rennes, plutôt que de te trouver tout seul à devoir tout apprendre, depuis comment on fait un raccordement à DSL ou fibre jusqu'à comment on traite le routage en BGP et comment on fournit les IP sur le merdier, je pense que ça t'intéressera de pouvoir utiliser 90% des compétences de FDN. Bon, donc il y a tout intérêt à se fédérer. Ça t'intéressera de pas avoir un ton gitoyen personnel tout de suite, ça t'intéressera de pas avoir à aller négocier tes 120 accords de peering, ça ne t'intéressera pas d'avoir à aller acheter ton transit pour un demi-mégabit qu'on va te faire facturer une demi-fortune, etc., etc. Donc il y a tout intérêt à se fédérer. L'autre idée, c'était dans l'autre sens. Il se trouve que ça ne s'est pas produit. On a redouté à une époque que peut-être il y aurait des gens qui s'intéresseraient qu'on fournisse de la DSL et que peut-être ils seraient nombreux. Moi, convoquer 160 adhérents en AG, on sait le traiter nous-mêmes, c'est pas très compliqué. On s'est trouvé une salle, on s'est discuté. Je pense que je connais presque le nom de tous les adhérents, je ne connais pas la moitié des visages. Je vois qui c'est les adhérents de l'association. Si on était 500, je ne suis pas sûr que je me souviendrais encore du nom de tout le monde, ou de vaguement, ou de un petit peu. Et si on est plus, c'est fini. Je ne sais plus le faire autrement qu'avec un numéro de matricule. Là, on est 160, bêtement, quand il y a... Sur les 160, il y en a à peu près 50 ou 60 que je connais bien ou suffisamment pour que quand ils téléphonent, je reconnaisse leur voix. C'est con. À 2000, je ne sais pas le faire. Et donc, si on devient trop nombreux, il faut trouver un endroit où ils sont suffisamment nombreux et leur dire « Gérez-vous vous-même, j'en ai marre de recevoir vos paperasses chez moi. Gérez votre paperasse vous-même. » Et évidemment, mettez-les dans le SIFDM, utilisez nos infra-raccordements, c'est pas le souci. Le routeur, il s'en fout de gérer 2000 lignes. Moi, par contre, je ne sais pas gérer 2000 adhérents proprement, comme il faut, en parlant aux gens. Alors que si vous êtes 80 sur la région de Rennes, faites-vous une association locale.
Encore.
Non, vous avez bien repéré, en Bretagne, on n'est pas nombreux. Mais voilà, ce sont donc deux idées distinctes, la fédération. C'est à la fois un spin-off local parce qu'il y a un projet intéressant à traiter localement, et puis il y a aussi une excroissance, il y a un truc, voilà, ils viennent suffisamment nombreux pour être autonomes, gérez-vous vous-même.
Essaimage.
Mais dans les deux cas, ça va être de l'essaimage. Les gens qui décident avec une structure associative similaire à celle de FDM d'aller opérer de la fibre optique sur Tours, c'est des scénages. Même si on n'a pas 40 adhérents à tout. Et en gros, si vous êtes dans une région géographique à une vingtaine, vous pouvez vous autonomiser de manière raisonnable. Ça peut tourner. D'où la question de comment on monte une fédération, comment on fait pour que là-dedans il reste ce qu'il faut de démocratie, comment on fait pour que là-dedans ce ne soit pas enfantin de prendre le pouvoir. L'entrisme reste un vrai sujet.
Il y a aussi d'autres notions. C'est, si tu commences à vouloir monter des jouer avec des DSP ou des choses comme ça locales, il y a un discours à avoir. Pour l'instant, c'est qu'un peu de connaissance à
avoir.
Oui, mais pour résumer, soit à l'AG de l'an prochain, on vote un changement de statut. Soit d'ici là,
Eden
aura
adhéré
à une nouvelle structure, je pense que...
Alors, non, ni l'un ni l'autre.
Rappel
au règlement. Voilà, ni l'un ni l'autre. Ce que je veux, c'est qu'on en discute. Ce que je veux, c'est essayer de sortir, probablement un vote, parce que c'est le plus simple formellement, mais au moins un sentiment de la réunion en AG. Est-ce qu'il y a consensus? Est-ce que ça plaît? Est-ce que ça plaît pas? Est-ce qu'on est plutôt pour? Est-ce qu'on est plutôt contre? Est-ce que le principe semble bon? Est-ce que le principe semble mauvais? Bref, ressortir une tendance.
Maintenant.
Ensuite, de là, il y aura de toute façon une discussion formelle sur la liste AG. Ce sera le bon moment pour s'y opposer. Et si on doit signer ça, et si ça passe par le changement des statuts de FDN, il y aura convocation d'une assemblée générale extraordinaire. Donc ce sera traité, et ça ne pourra pas se faire sans vote. Je ne peux pas changer les statuts sans vote. Vincent.
Oui, du soutien de FDN et des rapports entre FDN et FDN, si on change le statut.
Excellente question. Excellente question. Je n'en sais rien. Est-ce qu'on dit que c'est le président de la fédération qui est... est-ce qu'on retisse le même lien entre la fédération et le fonds? Ou est-ce qu'on retisse un lien différent, ou on retisse le même lien entre l'association FDN historique et le fonds. Je ne sais pas. J'en sais rien. C'est une vraie grosse bonne question. Et elle n'est pas de bonne.
La facilité de créer une structure à côté et que le président de chaque structure adhérente représente sa structure.
Ah oui, le plus simple, c'est de faire, c'est de créer une fédération de toutes pièces et de dire que le président de FDN est membre de la fédération, le président de FDN Picardie en est membre aussi, si et une voix chacun, puis voilà.
Si on crée, comment est-ce qu'on va faire pour faire profiter les autres du contrat de collecte à l'ESM ?
Par simple convention.
Ça, ce sera traité par une convention à part.
D'accord. Donc, ah oui, la SOS a les moyens actuellement de faire une convention sans dérouter, sans violer le contrat.
Alors, on vend bien des lignes à l'élection, on vend à qui on veut comme on veut, c'est le contrat.
D'accord. Et la question, est-ce qu'on peut modifier le contrat CGTL
sans
moins le nom ?
Non.
Donc, si jamais FDN devient la.
La fédération.
La fédération, voilà. Et que. On n'a pas le choix, en fait. C'est obligatoirement FDN qui doit devenir la fédération. Ça bloque, en fait. Parce que le bon plan, on doit le garder, ce contrat, par exemple.
Non, tu peux avoir des montages juridiques compliqués.
On fait pas une fédération avec FDN dedans, l'autre association est membre de la fédération, et passe une convention avec FDN pour avoir la collègue.
Voilà, donc on peut traiter des montages juridiques assez complexes. Si, mais pour les citoyens, on est beaucoup moins embêtés pour travailler les contrats comme on veut.
L'idée, c'est que si tu remontais une fédération au-dessus de FDN, qu'on va appeler FDN Paris, c'était un peu problématique de sortir FDN Paris de Citoyen pour faire rentrer la fédération de la place.
Ah non, non, ça c'est facile. Okay. Au niveau de Citoyen, c'est vachement simple. Ouais, ça, sortir l'association pour rentrer la fédé, c'est vachement simple.
Donc a priori,
non.
La fédération au-dessus de l'association n'est pas problématique pour plus que ça.
Non. Seul défaut, le contrat ne serait pas. Le contrat CGTL ne serait pas.
J'ai toujours pas.
Mais vous ça serait pas.
C'est pertinent de sortir FDN pour lui faire rentrer la clé à la place.
Non, je ne rien. Oh, si, parce que c'est bien l'endroit où il y a eu le plus gros la mutualisation.
Moi, j'aime bien comme une idée qui est de plus en plus demandant, je peux dire. Juste un seul gros associatif qui va résumer les autres. Ça va finir en collège d'association, en fait. Ça va être ridicule.
C'est pas faux.
Qu'est-ce
que
t'as mangé ? Le
collège. Ah oui. Oui, effectivement, ça peut être intéressant aussi de laisser juste FDL et quand les nouveaux entrants sont plus qu'ils en ont gros, ils rentreront dans le pays.
Ça, c'est F2DL qui plaît. F2DL ?
Oui. On va déplacer les deux.
En regardant, il y a deux.
C'est vrai que vous prenez avec deux affiches. Il y a une remarque que Chihuahua 42 à Jérôme.
Ah, tu peux parler le micro.
Il y a une remarque de Chihuahua 42 à Jérôme sur l'IRC à propos de, d'un certain ch'ti à Dan et Port qui.
Ouais, c'est un des projets.
Concernant justement le, une forme de hiérarchie entre une fédération FDN et des FDN locaux. Et a priori, lui, il ne voit pas de hiérarchie, ni d'une forme de contrôle, etc. Donc, c'est juste une remarque sur la structure.
La question n'est pas le contrôle.
Ouais, voilà, c'était juste une remarque.
La question n'est pas le contrôle.
Eux, par exemple, ils disent on met ça de façon totalement indépendante. Donc après, je ne sais pas. Je pense que c'est pour l'articulation, en fait, par rapport à la fédération.
Mais j'ai l'impression que la réponse à ça, c'est que si jamais Ch'ti là, utilise le SI de FDN, par exemple, et ben, c'est mieux que le Ch'ti il puisse contrôler FDN de façon à ce que FDN dise pas tout seul ah, bah, le SI. On l'arrête parce qu'on arrête la DSL, on sait rien en fait.
Le contrôle serait plutôt à faire dans l'autre sens. C'est les gens qui utilisent nos ressources,
oui, c'est ça que
il vaut mieux qu'ils aient un droit de vote.
Ouais. On peut faire les deux, c'est-à-dire qu'il peut très bien avoir un droit de vote dans un sens et être membre de la fédération dans l'autre. On peut faire des. Bon, c'est un peu alambiqué comme montage, mais disons que ce n'est pas strictement pyramidal, mais c'est.
Oui, mais strictement pyramidal, c'est dark. Non, c'est pyramidal.
Donc, non, moi je retiens quelques idées intéressantes. Que ce soit pas la fédération dans le citoyen. Accessoirement, je pense qu'il y a quand même besoin d'une forme de contrôle dans l'autre sens. C'est-à-dire que je ne veux pas me retrouver dans la situation où une association qui fait n'importe quoi porte atteinte à la crédibilité des autres. Donc, j'aime pas la notion de contrôle, et j'aime pas non plus la notion de n'importe quoi. Donc ça veut dire que si on décide de se fédérer, quel que soit le biais que ça prend, ça passe par des accords écrits et des engagements réciproques. Ça passe par, on ne laisse pas rentrer une association qui n'est pas démocratique. On ne laisse pas rentrer une association où il y a des, qui fournit un accès à Internet à des gens qui n'ont pas le droit de vote. On fournit pas d'accès, on ne laisse pas rentrer une association où il y a des gens qui ont un droit de vote qui vaut plus que les autres. Etc. etc. Il y a deux, trois critères clés comme ça qu'il faut mettre par écrit. Qu'on coopère après avec des associations qui ne veulent pas rentrer dans le cadre, pourquoi pas. Pour moi, il doit y avoir une certaine. L'idée est bien de construire du contrôle dans les deux sens. C'est-à-dire que les associations qui voudraient se fédérer sur le modèle ne fassent pas complètement n'importe quoi, ou alors ne se réclament pas de nous. Et que les associations qui souhaitent se réclamer de nous, on ne puisse pas faire n'importe quoi contre eux, et donc ils viendront de vote.
Est-ce qu'on n'a pas aussi intérêt à regarder au niveau du planning? C'est-à-dire, là, on est en train de discuter sur ce que ça pourrait être, mais est-ce que le fait de faire avancer cette discussion-là, ça ne génère pas aussi des envies ou l'envie de se bouler un peu plus sur des gens qui ont déjà envie de faire des choses?
Non.
On pourrait faire ça et le rendre un peu public. Disons, pas forcément très
public,
mais.
Il y a un petit côté ridicule à une fédération où il n'y aurait plus à bien qu'il puisse rentrer. Quand même. Ouais. Ça veut dire, en termes de communication, je ne suis pas certain qu'on atteigne le but de la même
côté. Ça fait une carrière tout droit.
De dire, je pense que si effectivement il y a des gens qui ont intérêt, qui ont envie de. Et intérêt aussi, pour des raisons de simplicité technique, de profiter du savoir-faire de l'ADN. C'est peut-être intéressant de, disons, de laisser fuiter de manière.
Je pense que principalement les intéressés, ce seraient les gens qui sont déjà inscrits. Enfin, c'est vrai, peut-être qu'il y en a en dehors.
Ah non, il y a des gens qui ne sont pas adhérents. Il y a des gens qui ne sont pas adhérents dans le lot.
Dans ceux qui veulent monter.
Mais ils sont sur IRC tout le temps, on les connaît, ils nous connaissent, etc. L'idée de monter une fédération, elle est déjà sur le site web et ça fait plusieurs années qu'elle y est. Hein. J'ai publié des choses dans une rubrique qui s'appelle FDN local sur comment monter un FAI local. Ça fait plusieurs années. Donc c'est pas une sensation nouvelle. Et je pense que c'est justement parce que le citoyen en parle qu'il y en a à qui ça a fait tilt. Je pense que la partie discussion sur les statuts de la chose vont être. Enfin, ça va être assez long. Et pour le coup, il y aura besoin vraiment d'une assemblée générale extraordinaire, à moins que ça attende l'assemblée générale ordinaire de l'an prochain. Mais, il y aura vraiment besoin d'un vote que l'on a.
Ça dépend si les Chilles, les Tourangeaux ou les Bretons sont suffisamment avancés ou pas.
Oui, non, parce qu'ils peuvent commencer par monter leur association, on traite tout sous forme d'un accord, éventuellement même juste d'un accord verbal, et on formalise la paperasse plus tard. Ce serait pas la première fois. Pas passer le papier. C'est-à-dire surtout dans le monde associatif, hein, on ne paye pas d'impôts, il n'y a pas de date limite, on n'est pas embêté par grand-chose. Hein. Si je fais un sondage dans la salle, l'avis sur cette histoire de fédération, plutôt pour, plutôt des choses, des.
Ça dépend du nombre d'associations en fait. Pour trois assos, c'est ridicule.
Pour trois assos, ça a du sens.
Pour deux assos, c'est ridicule.
Pour deux assos, c'est curieux. Pour une asso, c'est top, par contre.
Moi, je dirais que la question qui se pose, c'est est-ce qu'on a envie de provoquer cette discussion sur la liste ?
Salut, pas moi.
Est-ce qu'on a envie de provoquer cette discussion sur la liste, probablement.
Et au niveau de là, du sentiment, c'est ça qu'on peut retenir. Il n'y a pas d'inquiétude le fait d'avoir cette fédération peut peut-être des associations locales, parce qu'il y a pas un risque aussi que les activités se diluent peut-être un peu plus et se ressemblent de manière locale, alors qu'aujourd'hui on les concentre peut-être dans une seule structure. Je sais pas, c'est une question complètement au hasard.
Pas par contre. Pas complètement. Bah, je ne comprends pas le fond de la question. Non, toi tu dois savoir normalement les questions que tu poses.
Ouais, ce que j'ai compris de sa question, c'est est-ce qu'il n'y a pas un risque qu'on dilue trop nos énergies à vouloir monter de fédération et qu'elle ne dilue plus.
Oui, et puis en plus de ça, qu'il y a des énergies qui se retrouvent, qui sont un peu éparpillées de manière locale, mais à l'arrière, c'est bon, c'est pas trop méchant. Bon, le budget, de toute façon, donc, clairement, c'est peut-être de ramener les bonnes volontés locales qui n'auraient pas forcément envie d'adhérer à l'IDN aujourd'hui, mais qui auraient peut-être envie de faire des coups dans la pointe de cette volonté-là. Et est-ce que ça risque pas aussi de jouer un peu sur le fait que.
Sur la quantité de bonne volonté, moi, l'impression que j'ai d'expérience, c'est que la fonction crée l'organe.
Ouais, c'est quoi.
C'est-à-dire que, franchement, des gens qui sont prêts à mettre la main à la pâte dans l'IDN, on est nombreux. On est presque une dizaine dans le bureau. Autour du bureau, vous êtes une quinzaine à avoir envie de vous bouger régulièrement. Quand on convoque les gens à l'Assemblée Générale, on est nombreux. Je ne sais pas si vous faites beaucoup d'Assemblée Générale d'association, mais par rapport aux 150 adhérents à jour de cotisation qu'on a, entre le nombre de procurations qui ont été données et le nombre de personnes qui sont présentes dans la salle, on est nombreux. Avec des gens qui ont des choses à dire, qui sont relativement peu passifs, même si ça m'arrive de gueuler en liste, pour la liste âgée, c'est peut-être de dégo. On ne manque pas de bonne volonté dans la PL. Maintenant, quelqu'un qui vient me voir et qui vient me dire est-ce que, qu'est-ce que je peux faire, je ne sais rien. Moi. Trouve-toi un projet, mène-le. Je signerai en bas. Mais je... À l'heure actuelle, il n'y a pas de projet, juste parce que. Les gens ne se sentant pas président d'eux, ne font pas, ne se sentent pas obligés. Franchement, si je monte à FDL Amiens, est-ce que tu crois que Alain et Nico ils se relèveront la nuit quand il y a les cancers en panne ? Réponse oui. Maintenant, pour le FDL Paris, ils ne se relèveront pas. Ils savent qu'il y a déjà les 35 autres. Hein.
C'est-à-dire qu'il faudrait se coucher la nuit.
Ils savent qu'il y a déjà Dom, qu'il y a déjà Burry, qu'il y a déjà moi, et que oh, bon, ça attendra bien à se réparer. Voilà. En fait, on a presque trop d'énergie par rapport à ce qu'on est capable de gérer.
On
n'a
juste pas assez de projets.
Si on fait le point aussi sur la discussion qu'il y avait eu l'an dernier avec les groupes de travail, là par contre, moi je ne peux pas être d'accord avec ça, parce que il y a eu quand même plein de gens qui ont dit ah oui, moi oui, et au final,
on n'a rien fait, oui, de toute façon. C'est une association standard.
Soit, mais du coup, je veux bien réaliser ce truc.
Ah bah, c'est-à-dire
qu'on a trop d'énergie par rapport à ce qu'on peut gérer, c'est pas vrai.
Bah, c'est
on a peut-être plein d'énergie, mais on n'a pas beaucoup de temps.
Si tu avais ton accès à l'ESL personnel à toi, dans ce que tu as à gérer et dont tu es responsable, peut-être tu t'en occuperais.
Oui.
Les gens qui ont signé l'an dernier, j'ai pas ramené, hein, j'ai été généreux, j'ai pas ramené la liste avec qui est membre de quel groupe de travail, parce que sinon ça, on va se moquer. Je parlerai pas de ceux qui ont signé pour le groupe de travail téléphonie sur IP. C'est rien passé. On dirait pas qui. Je m'en souviens même pas, ils ont tellement rien fait. Donc voilà, sur les groupes de travail, en gros, lesquels ont fonctionné, le groupe d'admin 6, évidemment, ils ne pouvaient pas ne pas fonctionner.
Si, ils ne pouvaient pas ne pas fonctionner.
ne va pas fonctionner, parce que si les admins 6 ne font pas leur boulot, en 3 semaines l'association est éteinte, et que moi je veux mon accès internet, donc t'inquiète pas, ça va prendre des coups de pied dans le cul.
Inversement, je sais pas, il m'est arrivé une fois d'envoyer un mail sur admin 6, ça s'est terminé, j'ai dû choper Lulu sur IRC, et il m'a fait le truc, mais le mail sur admin 6, c'est comme si je l'avais mis à la poubelle.
Ah ben oui, parce que tu relances pas bien, tu m'as mis en copie pour me dire 20, ça bouge pas.
C'est vraiment que je suis inscrit, mais enfin, que j'essaye de m'inscrire avec ces admin 6, c'est que j'ai tout pas de...
Alors ça fait partie des...
Ah,
c'est
pas peut-être.
Non, ça passe pour très bien. Non, c'est simplement Thomas Parmenant qui gère la partie admin 6. Ce que j'ai demandé, qui est un chef à chaque fois, de mon côté pénible, moi je veux avoir qu'une tête. Donc c'est lui qui est à la tête de l'équipe d'admin 6. Et qui n'a pas pu venir aujourd'hui, voulait qu'on fasse rentrer les trois, je crois, qui ont demandé à rentrer dans l'équipe de 2006 en même temps, suite à l'AG, et qu'on regarde si des fois on réorganise différemment ou pas.
Donc on va ça avec toi aujourd'hui, parce que je fais partie des trois. On verra ça plus tard après la fin ou...
Suite à l'AG, dans le mail qui sera envoyé cette nuit ou demain matin. Il y aura le nom des... Alors, je ne sais pas si les trois sont là, ou les trois qui veulent rentrer. Alors, il y a Benjamin Camara, il y a...
Grégoire
Baron. C'est bien, il y a des prénoms maintenant. Il y a des villages sur les prénoms. Et...
C'est vrai qu'il y a un prénom, ça serait plus drôle.
Il y a quelqu'un Barbonchon, alors.
Ah, voilà, pas mal.
C'est peut-être moi.
Et toi?
Peut-être.
Ouais,
t'es
pas sûr?
T'es pas sûr que t'as demandé?
Alors, j'ai demandé à être inscrit à la liste admin 6.
Ouais.
Je n'ai pas demandé à être quelqu'un du groupe admin 6 en tant que tel.
Alors, quelle différence tu fais?
Eh bien...
Si c'est juste pour aller polluer la liste, ça sert à rien.
Non. C'est-à-dire que je me suis proposé pour m'occuper de la gestion des listes. Mettre un peu d'ordre dans la gestion des listes.
Ouais.
Mais il est évident qu'il y a d'autres sujets que je suis totalement incompétent. La gestion de sympa, je veux dire.
Mmh.
Et donc, je me suis dit, c'est quelque chose que je vais avoir interféré avec les admin 6,
oui.
Dont je ne fais pas partie. Et donc,
bah donc tu en fais partie.
Donc, tu en fais partie. C'est un coup de bois, je veux que de l'IBM 6, c'est pas du reste, je veux pas toucher le reste.
Alors, je connaissais pas la définition d'admin 6.
T'es doué, là.
Ah ouais, c'est super doué. Tu vas pas toucher le reste, super fort.
Est-ce que vous pouvez aller, juste pour que. Ouais, puisqu'il y a un copie, ce que vous pouvez leur donner, vos numéros.
Alors, il y a Benjamin Camara, là-bas. Il y a Grégoire Baron, Michael Erinx, alias Hamster. Alors, dans l'ordre du jour, il n'a pas été fait dans l'ordre. On a fait le bilan de l'association avec l'état de l'association, bilan comptable. On a fait le point 3 qui est le bilan de FDM 2. On est en train de boucler le point 2 sur le bilan de mise en place des groupes de travail.
On a commencé.
Autant pour moi. Ensuite, on a l'élection du nouveau bureau. On a expédié, il y a un petit moment, le suivi des services existants. Donc, il nous reste à finir la partie sur les groupes de travail, qui est, à mon sens, un sujet important. Pour la forme, on élira un bureau à un moment.
Il y a des questions
diverses. Oui, on peut décider qu'on va encore prendre le bureau l'an prochain. Hein. On peut décider qu'on reconduit le bureau pour l'an prochain, ce qui évite les paperasses avec la préfecture. Mais sinon, on peut décider de recomposer le bureau. Donc voilà où on en est dans l'ordre du jour.
C'est des moments où on n'a pas entendu rentrer.
Donc, sur le fonctionnement des groupes de travail, effectivement, c'est pas satisfaisant. Ça bouge assez peu. Et je constate que le seul qui tourne vraiment bien, c'est celui d'admin 6. C'est-à-dire quand il y a une panne, un pépin, quelque chose, je vois bien la liste arriver. Quand sortir des... Moi, je la suis, la liste admin 6, parce que je suis dessus. Et voilà, quand on envoie des choses à faire, il y a des réponses, il y a... Le plus souvent, ça marche. Et il arrive à se coordonner sur la gestion des pannes, sur la gestion de la config des machines. Et je confirme que les modifications de config, c'est plus moi, c'est plus le trésorier, c'est à peu près jamais le secrétaire.
J'ai
rien fait,
j'ai
jamais fait une passe-route. Voilà, c'est bien les admins qui font leur boulot. Voilà, c'est pas mal.
Peut-être si je suis pour pas grand-chose, le groupe politique, il marche aussi.
Oui, le groupe politique, il marche aussi. Mais c'est, il marche tout seul, hein, parce que tu noteras, c'est bien autonome, le groupe politique.
Je voudrais bien que tu
développes
un
peu, du coup.
Oui, moi aussi.
Le groupe politique, c'est moi tout seul quand je parle dans la presse. Hein. C'est le seul morceau qui marche.
Parce que là-dessus, moi, je t'avais envoyé un mail. Enfin, ou l'adresse, je ne sais plus là-dessus, c'était où je posais la question de l'internationalisation en fait, des questions qui sont soulevées par ces trucs politiques de l'EVN, où, en fait, sur ces trucs de l'Internet, ou de la fille ou Michael 2.0, là, rien en anglais, très très peu, et où c'est hyper difficile en fait d'en parler à d'autres gens, et je trouve là-dessus, on pose des questions qui sont singulières, mais qui sont généralisables. Mais...
Oui, mais moi, je ne sais pas expliquer dans une autre langue.
Tu pourrais
faire ta réponse
en anglais ?
Non, c'est pas le cas. On m'a posé la question, j'ai refusé une interview, enfin une intervention, pas une interview, sur France 24 parce qu'elle était en anglais et que je ne suis pas sûr de savoir m'exprimer convenablement sur le sujet en anglais. Ce sont des sujets compliqués sur lesquels choisir les bons termes est important. Je parle largement assez d'anglais pour pouvoir discuter pendant des heures de programmation ou de cuisine. Parce que c'est des sujets pas importants et si le mot est approximatif, c'est pas grave. Par contre, voilà, je sais pas parler de liberté fondamentale et de démocratie et de neutralité du réseau en anglais. Je sais pas le faire.
Puis bon, Minitel, c'est intraduisible.
Alors, Minitel, à travers, ça va pas être simple.
Mais je pense que ça manque vraiment, en fait. C'est pour ça que...
Oui, ça manque vraiment, oui. Je ne sais pas le faire.
Peut-être pour une personne de conscience, en fait, de conscience, en fait.
C'est pas une question de confiance ou pas, c'est pour trouver quelqu'un qui soit capable d'aller expliquer ce discours-là.
Est-ce qu'il y a des associations qui vendent des FDM?
Oui. Alors non, équivalente, non, on est les seuls. Il y a des associations proches, mais il n'y a pas d'association équivalente. On n'en a jamais trouvé, pourtant on en a cherché. Mais quelque chose comme l'Electronic Frontier Foundation, on se sent assez proche d'eux, on a des sujets communs, on lutte ensemble pour la neutralité du net, on lutte ensemble contre les bêtises d'AT&T au Parlement européen.
Parenthèse, mais AT&T, qu'est-ce qu'ils foutent au Parlement européen ?
Ouais, comme nous. Ils sont mandatés par les gens qui les financent pour aller foutre le bordel au Parlement.
Ah d'accord, c'est une bêtise.
Au Parlement et la Commission européenne, il y a du lobbying institutionnalisé.
Et qui fonctionne bien, qui a un bon outil.
Et il y a des gens qui sont payés à plein temps pour aller faire du lobbying à la Commission ou au Parlement.
La question, c'est peut-être AT&T américain ou Parlement européen, vous ne pouvez pas nous
dire. AT&T, ils ont des clients en France, ils ont un bureau de vente en France, ils ont une direction commerciale en France. Et puis pas en France, à Bruxelles, à Londres.
Ok.
Et il se trouve que eux, ils ont décidé de payer un lobbyiste à plein temps, alors que Brand, non. Par contre, Telefonica, oui. Il y a un lobbyiste de Telefonica en permanence.
Ils finissent par se connaître tous les députés.
Ah, mais c'est vrai qu'ils existent. Mais attends, ils ont
plus simple, ils sont achetés des ministres.
Oui, Orange, ils ont acheté des ministres, c'est pas pareil quand même.
C'est plus cher, c'est plus efficace,
c'est
plus cher.
Non, c'est pas tellement plus cher finalement.
C'est pas vrai.
Non. Ça coûte raisonnable.
J'ai déjà assisté à des conférences de lobbying auprès d'un député européen, et j'ai mis surtout, pas la monnaie, pour lui faire une démo d'un système d'IRL. J'ai planté la démo. Voilà, ça se fait, c'est totalement institutionnalisé et on les tutoie. Hein. Sur la carte de visite, c'est marqué le lobbying auprès de la Commission européenne.
Okay.
Ça se fait au grand jour, c'est normal, ça se fait, on a fini plein de quelques jours là. C'était pas mal.
Ça a certaines dérives malsaines, ça a d'autres pratiques qui sont au contraire très saines. C'est-à-dire que Ben voilà, le fonctionnement du lobby européen est quelque chose de particulier. Et qu'il faut comprendre. C'est-à-dire que si tu décides de laisser les quelques centaines de parlementaires européens écrire tout seul le texte qui va réglementer les télécoms en n'ayant consulté personne, ils vont forcément écrire des trucs qui n'ont même pas de sens. Un problème, c'est s'ils vont consulter tous les opérateurs d'Europe, ils vont écrire ce qui arrange les opérateurs. De l'autre côté, s'ils vont consulter toutes les associations d'activistes et que les associations d'activistes, ils vont nous faire un super Internet vachement libre, mais qui ne fonctionnera pas économiquement avec des sociétés qui font faillite. Et donc, bah, voilà, ils écoutent tout le monde. Et il se trouve que les seules personnes qui peuvent payer le lobbyiste à plein temps, c'est les entreprises. Oui, parce que si FDN veut envoyer un lobbyiste à plein temps à Bruxelles, il faut le payer.
Oui, effectivement.
La prime le fait.
Non, la prime ne le fait pas.
C'est souvent ce qui le fait pour le moment.
La prime le fait.
Elle est payée par...
Elle n'est pas à Bruxelles tout le temps, elle passe, voilà, elle fait la navette. Oui, ils ont des permanents. Bien. Ouais, qu'on revienne là, sur les... Oui.
Pour les groupes, là, il y a
Faut que tu parles plus fort.
Non, il y a juste Nicolas Lémarque qui a dit qu'il se retire du groupe politique. Parce que finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'activités.
Il n'y a pas eu.
Et donc, bah, il juste, c'est pas du tout qu'il n'y a pas le côté politique de l'ADN ou qu'il n'est pas satisfait de l'action de l'ADN à ce niveau-là. C'est juste que, bah, d'après lui, là, c'est pas forcément utile, quoi. Peut-être que ça ne sert pas.
Le groupe politique.
Ah, il n'y a pas eu de message, il n'y a rien.
Il n'en a pas envie non plus.
Non, mais non, c'est pas. Moi, je lui ai demandé souvent si c'était plutôt amer ou pas. Il me dit non, pas du tout, c'est juste.
Ouais, j'avais proposé de faire un groupe communication.
Ouais.
Et on m'avait répondu, ça fait partie du groupe politique.
Ça dépend du sens de la communication.
Et donc, faire savoir que FDN existe, en choisissant le public à qui on s'adresse pour ne pas s'épuiser à rien faire, à parler dans le désert, il y a beaucoup de gens qui sont sensibles à ce problème-là et qui simplement ne savent pas que FDN existe. Et ça, c'est pas auprès des médias ou des députés. Et par exemple, tenir un stand FDN à la fête de l'humanité, pour moi, c'est tout à fait dans cette partie-là. C'est quelque chose que je trouve qui manque et qui mériterait d'être développé. Et ça demande des bénévoles qui ne sont plus les mêmes à ce moment-là. C'est limite d'aller tenir un stand, faire acte de présence, mais à la limite. Et donc, Neil qui dit. Ce groupe-là, il n'y a pas grand-chose à y faire, je ne suis pas d'accord. Il y a des choses à y faire.
Alors, effectivement, ce n'est pas tout à fait la même chose. Pour moi, un groupe... je me méfie de ce qu'on met derrière un groupe communication. Communication au sens aller tenir les stands, etc. Je suis assez d'accord sur le fait que ça ne relève pas tellement du groupe politique.
Ah, mais...
C'est différent de ce que fait le groupe bénévole à l'heure actuelle, en fait. La majorité des gens qui discutent sur bénévole, c'est ça.
Non, mais attention, quand on va tenir un stand, au nom de l'association,
ouais.
Il faut aussi savoir quel discours on a au nom de l'association,
ouais.
Quels arguments on avance, quels arguments on évite d'avancer, et ça, c'est des choses qui doivent être décidées par le groupe politique.
Non.
Si moi j'y vais, je vais pas avoir de renseigner au groupe politique pour savoir quoi dire.
Tu dis ce que tu as à dire, tu dis ce que tu sais dire, tu dis ce que tu sens, tu dis ce que...
Oh, okay.
Là, t'es pas plus membre que moi, t'es pas moins membre que moi.
D'accord.
Donc j'ai pas à te dire. Tu peux dire des choses qui sont pas vraies, auquel cas tu seras repris éventuellement, mais comme tout le monde qui dit une bêtise. Tu peux avoir mal lu les statuts et dire quelque chose qui est statutairement pas vrai. Tu peux très bien prendre position sur un sujet et puis quand on discutera avec quelqu'un d'autre, tu te rendras compte le lendemain que tu t'étais gouré.
Et alors,
c'est pas grave.
Le bénévole qui dit moi je serai libre, mais bon, je sais pas trop quoi dire, je me sens pas à l'aise pour faire ça, on lui prépare pas une foire aux questions.
Non. En une demi-heure, il sort.
Non, il faut qu'il écoute les autres parler.
Il écoute les autres parler une demi-heure, il sort.
Donc, de toute façon, pour tenir un stand, l'argumentaire il n'est pas très compliqué. Hein. Il s'agit juste d'expliquer pourquoi on a adhéré à l'IDL. Quand on adhère à l'IDL, en général, c'est pas innocent, c'est une raison.
Si tu n'es pas capable d'expliquer pourquoi tu as adhéré, il ne faut effectivement pas venir tenir un stand.
En général, on ne vient pas à l'IDN pour ses prix. On vient pour une raison.
Il y a à manger
de la bière. Voilà, c'est ce que je disais sur le stand. Là, On vient pour plusieurs raisons. Il y a d'ailleurs ici, on verra plusieurs raisons différentes. Chacun va expliquer sa raison. Et sur un stand, je ne trouverai pas plus mal que chacun soit aussi capable de savoir qu'il y a d'autres raisons et je les expliquer aussi.
Voilà, c'est ça, c'est bien les plusieurs à faire de France.
D'accord. Quand je dis qu'on a un truc formaté, on n'a pas une plaquette FDL avec la plaquette qui est
partie des deux. Ah si, c'est une jolie plaquette.
Et les espages.
Qui a été, la brochure 16 pages, elle a été validée par le Folie Bureau et elle a été relue par la direction marketing. C'est la véridique, hein, la Nanette qui l'a relue, la Nanette, pardon, madame. Madame, la nouvelle de l'épine, son métier c'est le marketing. À l'époque, elle était encore mademoiselle Anouk Pirolet.
Il y a des
damoiseaux dans la salle. Des messieurs
pas mariés, plein. On est des geeks et des
no-lifes. Pourquoi? Au support, ça dépend de quel groupe.
Il y a un groupe support.
Bon, il est actif. C'est de l'aide que j'ai bénéficié et je l'ai remercié pour ça.
Alors, pour le moment, le groupe support est essentiellement... caractérisé par Dominique Rousseau, et normalement il devait y avoir une certaine intervention de Vincent Molinard sur le sujet. Peu productive.
Sur l'année.
On a toujours fait en sorte que les adhérents, les pannes soient traitées, qu'on réponde aux questions, etc.
À ce sujet, j'ai effectivement pas fait beaucoup de bruit là-dessus. Ceci dit, je suis toujours responsable de la liste de support, et donc j'ai vu passer tout ce qui allait passer. En fait, Denis m'a toujours pris de court à chaque fois qu'il fallait répondre.
Oui, les deux, je ne sais pas répondre,
et je me dis, bon, bah, si dans 24 heures il n'a pas de réponse, je m'occupe d'aller sous les cloches. Et effectivement, il avait une réponse suffisamment vite. Et par ailleurs, il y a eu, je crois, deux incidents importants qui ont donné lieu à un ticket chez Meuf. Et puis, il y avait chez ses frères, très femmes, etc.
Pas quand même, c'est étonnant, toi.
En train de s'en brûler dans tous les étages.
Pendant tes statistiques que tu as ajoutées, c'est moi quelqu'un qui a évolué, c'était un problématique mais côté France Télécom, que notre ligne est pourrie et qu'on a pu détecter ensemble, que c'était une ligne pourrie en ville, qui a amélioré. C'était quand même 4 semaines pour arriver à tous.
Il y a Dominique qui a demandé la parole aussi.
Oui, c'était le moment après l'incident 60, je ne sais plus qui d'autre, sur la question de, parce que j'étais MPL sur, quand on tient un stand, bah voilà, c'est qu'à un moment donné, c'est comment dire, ce que chacun en pense, pourquoi il y a FDN, et puis que pour la base, bah, il y a la brochure qui a été faite, dans laquelle il y a l'essentiel.
Sinon, par défaut, la bonne réponse, c'est je ne sais pas. Donc,
ouais. Oui, faut faire gaffe, quand les gens vous demandent pourquoi vous avez adhéré, vous répondez je sais pas, et eux, c'est vraiment pour des cons.
Voilà, ils signent en aussi.
Oui, ils peuvent faire vraiment que je sais pas. Ce
qu'a dit sur Concluorange, ils disent ça aussi, et tout le monde
prend. Ouais, c'est pour ça, je suis pas sûr que mes voeux soient là dans les gens, ils ne sont pas bien.
Le président est parti faire pipi, il va revenir. Plus la deuxième
bourse, il revient avec un message.
Où est-ce qu'on en était sur les groupes de travail?
Il y a Anovox aussi.
Si, ça fait partie des groupes de travail. Il se trouve que ça avance, c'est pas bien le groupe de travail. Ouais. Ce qui est pas surprenant.
D'accord. Bon, je peux faire vite le point. Enfin, vite fait ce qu'on est en train de faire. Ouais. Donc en fait, on a lancé. Enfin, j'ai un pote et moi, il l'a fait passer comme un projet à la fac. Donc du coup, il doit dire à la fac ce qu'il fait et faire un truc. Sinon, il va se. Donc l'idée c'est qu'Anovox, on est parti sur comme plateforme la e-box, parce que c'est pas très cher, c'est assez puissant pour héberger
un site, un serveur de mail, un truc de photo, etc. Enfin, c'est un vrai PC, quoi. Ça consomme pas beaucoup de courant, et voilà. Et ça se trouve partout. On a choisi ça comme type de plateforme pour la première version de DevOps, bah, qui est un PC, en fait, c'est pas du PC. Et comme pour le logiciel, alors, il y avait deux pistes qui sont assez différentes l'une de l'autre. La première piste, c'est d'utiliser OpenVRT et d'étendre le système existant. Donc c'était déjà une interface web assez bien foutue pour gérer toute la OpenVRT, qui est une petite distribution Linux qui a ses limites quand même. On est déjà tombé sur certains trucs qui sont limites. Mais ça, c'est la voie la plus simple, parce que c'est pas si long que ça, et c'est pour faire un proof of concept, ça sera très bien, je pense. C'est ça. Et ensuite, la deuxième voie, c'était d'utiliser Debian et de refaire un peu la même chose qui existe avec OpenVRT. Enfin, faire la même chose avec Debian, ce qui suppose plus de développement par contre. Parce qu'il y a déjà des choses qui existent, par exemple l'abstraction de la configuration, l'interface d'admin, etc., qui n'existent pas vraiment sous Debian. Donc, où ça en est le boulot actuellement, on est en train d'étendre l'interface d'admin d'OpenVRT et de configurer les paquets.
Ouais. Alors, le lien avec LDL, c'est que le projet Novox, il sort au départ des jeux de questions-réponses à la fin de la conférence à Amiens, il y a presque deux ans. Ça a été repris et mâchouillé à pas mal d'endroits, essentiellement chez GlobeNet, mais aussi à d'autres endroits. Beaucoup de gens sont venus me dire « Ah, mais on veut faire un projet de serveur à héberger chez soi, etc. » À chaque fois, je constate qu'il n'y a rien qui sort. Donc, l'an dernier, on a mis dans la liste des groupes de travail que la Novox était un projet officiel de FDL et qu'on souhaitait y contribuer, et que ça serait avec tous ceux qui avaient envie, mais la question, c'était qu'on n'attendait personne. On y va, point. Et donc, il y a un groupe d'étudiants autour de Vincent qui ont proposé de monter ça sous forme d'un stage, d'un projet universitaire, dans le cadre de leurs études. Plutôt que d'aller développer des bêtises pour un patron en Java, ils ont décidé qu'ils allaient faire un projet qui leur paraissait amusant et intéressant et utile. Voilà. Donc FDN finance le peu qu'il y a à financer, c'est-à-dire l'achat de deux e-bots, qui représente un budget colossal de l'ordre de 500 €. Toute la force de travail est fournie par des étudiants non payés. Donc oui, à peu près des esclaves, on peut dire.
Non,
mais
ils ont pas
coté,
ils ont fait don.
Ils ont fait don de leur rémunération à l'université, c'est gentil ça. Et puis ben, on verra bien ce qu'il en sortira, ouais. Mais au moins il en sortira, si tout va bien, quelque chose. Ouais.
Pour autant, le projet n'est pas fermé, les listes de développement et de discussion sur la Novox sont hébergées par FDL.
Ouais.
Le projet y est affilié finalement. Et donc les contributions restent possibles. Hein. C'est pas un projet.
On n'a pas un projet fermé du tout. Ouais.
Ouais. Donc s'il y a des gens qui ont envie d'aller coder autour de ça, ils sont des bienvenus. Par contre, j'ai vu beaucoup, parce que ça fait presque deux ans que ça parle de Novox, des gens qui en parlent et qui font pas, il y en a eu beaucoup, moi le premier d'ailleurs. Donc je suis assez partisan d'une méthode extrêmement ferme. Les gens qui donnent leur avis, c'est les gens qui soumettent des patchs. Point. C'est, donner son avis quand on code pas, c'est pas vrai. Donc on donne son avis en soumettant du code.
De toute façon, pour les deux projets, les deux voies pour faire le Novox, je pense qu'il faudra les faire toutes les deux parce que
oui.
La solution OpenVRT, elle ne se suffira pas à elle-même. Rien que pour le serveur de mail, par exemple, c'est XMail, ça s'appelle, je ne sais pas si vous connaissez XMail. C'est les mots de passe encodés en Web13, pour donner un peu d'idée. C'est un petit truc qui, en fait, l'intérêt, c'est qu'il n'y a pas du tout de... C'est pas lié au compte Unix, tout ça, donc il y a des mails qui arrivent à un endroit, il y a des comptes, tout est fait... À partir de...
En gros, serveur de mail sur OpenVRT, c'est la merde, parce que, enfin, si je ne pas, je serais peut-être plus la moi, ce que j'aimerais bien avoir.
Ouais. Donc, en gros, l'intérêt de OpenVRT, c'est que ça permettait de développer un truc qui marche en 6 mois, quoi, et dans une box qui fonctionnerait en 6 mois, normalement. Mais à terme, ça ne pourra pas vraiment. Il faudra aussi faire la version des Giants qui est obligée à encoder une interface d'animaux et tout ça. Et une abstraction de fichiers de conf.
Et je pense, moi, vous prenez une. Il y a sûrement moyen de faire plus simple, mais comme je ne vais pas le faire, je vais vous dire la
tête. Tu soumets des patchs, je ne suis pas tout
dire. Non, je ne sais pas, je n'ai rien à dire. Faites-y comme vous avez envie, vous avez raison. Un principe simple, c'est celui qui le fait par lui. J'ai l'impression que tu n'avais pas fini sur le groupe politique, là. Non, je ne sais pas, je te sens frustré. Non ?
Là, je trouve juste qu'on traîne et on n'arrive pas assez à se concentrer sur l'ordre du jour, les discussions, on y a ici, on avance.
Oui.
Prenez du temps, en fait, parce que c'est que moi, là, je vais partir à 7h dans les délais, et en fait, ce qui m'intéresse, c'est aussi qu'on ait du temps pour se voir, parce qu'on passe, on fait des trucs, on les voit eux pour discuter de l'autre, c'est qu'est-ce qu'on peut faire ensemble. Si on passe tout le temps à discuter en AG formel, et ben, on n'aura que ça.
Ouais.
On a le temps d'être
Mais moi, je suis un peu frustré sur le groupe politique. Je pense que c'est nécessaire que le groupe politique ne soit pas uniquement dans la tête du président.
C'est pas vrai, il y a le vice-président aussi des fois.
Ouais, mais que ça se passe aussi ailleurs que juste entre deux ou trois personnes autour d'une bière, dans un lieu, c'est pas forcément facile pour les autres adhérents du FDL de savoir ou de participer.
C'est pas facile à discuter sans bière aussi.
Même si ça discutait autour d'une bière, c'était aussi après.
Moi, le jeu d'un CR sur la liste.
Voilà, il y a aussi beaucoup de choses qui sont opportunistes.
Ouais.
Il y a beaucoup de discussions qui sont amenées sur des rencontres dans tel ou tel événement ou dans tel ou tel concentration de clics ou. Sur lequel on fait des rencontres en
temps. Dans les zéros. Plus les zéros.
Pour nous, c'est zéro. Mais justement, on va promettre d'essayer de faire des efforts. Non, je ne suis pas certain que ça arrive. Ça reste super compliqué de rentrer et de savoir ce qui s'est passé, ce qui s'est dit, ou pas, c'est arrivé. Je suis d'accord.
C'est certain, ça va demander des efforts
de faire un développement. Non, c'est pire que ça. Si tu veux. Il y a un exemple très simple à prendre qui est l'interview que j'ai donnée sur écran.fr et qui est passée dans l'idée papier, qui est fait de quelle page en idée. Qu'est-ce que tu veux que je fasse comme compte-rendu là-dessus? J'ai parlé pendant 4 heures avec la journaliste. Elle a enregistré, elle a pris des notes.
Elle a publié.
3 mois plus tard. Elle l'a remis en forme et elle l'a publié. Elle a mis 3 mois à mettre en forme parce qu'elle n'avait pas que ça à faire. Qu'est-ce que tu veux que je poste sans comprendre? J'ai parlé de tout. Ça a été repris à 80%.
Tu as fait des interviews, que tu es d'accord si tu es écrit dans le journal. Pas d'accord. Et à quel moment c'est... Ensuite, c'est à chacun et le monde
réglé. Ça a été annoncé sur le site web. Il y a un lien à l'FDL dans la presse avec un. Voilà, vers l'interview, etc.
Les rencontres et les discussions suite à la préparation de cette interview avec les politiques car, que moi j'ai rencontré après,
même chose, j'aurais bien aimé qu'on discute avant l'interview de ce que j'étais censé y dire d'un autre côté. Le seul moyen d'en discuter de manière intéressante, moi je ne sais pas faire autrement. C'est que régulièrement on se retrouve autour de la bière et qu'on en parle. Parce que si tu regardes, il y a 50 sujets différents qui sont abordés. Je ne peux pas les soumettre tous à discussion formelle sur une liste comme le ferait une motion d'UPS, si tu veux, ça va donner un tas de merde à la fin. Ça donnera une espèce de position mi-chèvre, mi-cochon. Tenant plus de du mariage de la carpe et du lapin où le lapin n'était pas consentant, enfin ça fait un truc bizarre.
D'une manière générale, c'est vrai, mais pas pour tous les groupes. Hein. Sans se voir, c'est quand même difficile de gérer. Les groupes très techniques, ça se passe mieux. Ce sont des groupes techniques. Mais à partir du moment où on commence à s'attraper un peu de la technique, c'est bien plus difficile.
Et je pense que le groupe politique ne peut pas fonctionner.
fondamentalement
ne peut pas fonctionner sans se voir. Comment tu veux qu'on arrive à s'imaginer si on est d'accord ou pas sur l'interprétation qu'il faut faire de l'article 5 de la NOPI sur est-ce que ça veut dire filtrage ou est-ce que ça ne veut pas dire filtrage, est-ce que c'est un pied dans la porte? Ça, moi, il faut 6 pains, 3 heures.
Moi, j'espère que je veux bien qu'il me rajoute le compromis.
Mais chacun est italien.
Mais chacun d'habitude.
Ça n'empêche pas. Voilà, le dernier point formel qui nous reste.
Mais on a fini avec le travail, non?
Je pense, oui. Je crois qu'on l'a oublié.
On n'a pas parlé de l'FTTH, donc effectivement, il n'y avait pas grand-chose.
FTTH, il ne s'est rien passé, pour le coup, il ne se passera rien. Sur 2009, il ne se passera à peu près rien. Il ne peut rien se passer, il n'y a pas de réseau FTTH. Donc il pourra y avoir des résurgences locales, mais FTTH au sens national, il n'y a rien en soi. Les trois opérateurs qui sont en train de déployer du FTTH se regardent en chien de faïence, il ne peut rien se passer.
Et ouais, comment se fait la SNDR ? Qu'est-ce qui se passe ?
Et bien il n'y a toujours pas de normes de publier, l'ARCEP n'a toujours pas tranché à savoir qui de Orange ou de Free a raison. Ils ont dit toutes les semaines depuis 2 ans que Free avait raison, mais ils ne peuvent pas l'écrire parce que tu comprends, il y a plein d'anciens ministres qui travaillent chez Orange et que donc on ne peut quand même pas dire du mal.
Mais voilà. C'est la technologie employée, si c'est pas d'accord, comment faire le faire?
Ça va même plus loin que ça, c'est pareil, retour de discussion avec les commerciaux de Complétel sur et de la collecte fibre en disant en fait, oh oui, et ça coûte combien, bah, je ne sais pas, il faut que j'en discute avec la direction. Pour l'instant, on va voir. Donc, grosso modo, les discussions, moi, les réponses que j'avais eues, c'était éventuellement, dans certaines DSP, on pourrait envisager à proposer de poser des switches. Mm-hmm. À quoi tu réponds, ouais, enfin, donc en bref, comme n'importe quel opérateur, en fait. Ouais, voilà. C'est tout. Donc, si on veut aller dégrouper des POP de certaines DSP, on peut. Donc, ça, c'est pas une révolution non plus. On était au courant. Et sinon, collecter nationalement, quand on fait la collecte DSL, par exemple, ben juste nous. Pour l'instant, on ne sait pas. Et on ne saura pas avant au moins 6 mois.
Comment collecter nationalement le transit de
ouais. Pratique. Parce que eux ne savent pas comment le fournir.
Moi, je dirais au moins 2 ans.
Ah ouais, d'accord, il y a les fibres et tout, mais on ne peut pas le transit.
Il n'y a même pas les fibres.
Il n'y a même pas les fibres. De toute façon, si vous lancez la crise, la voie déployée de la fibre, ça coûte cher, donc il n'y en aura pas cette année.
D'accord, mais on en discute l'année prochaine. Quoi.
Puis tu comprends, celui qui en fait le plus c'est numérique, et puis en fait c'est quand même du câble, et puis fait chier. Hein.
Puis il n'a pas envie de vendre de la collecte, et puis d'un autre côté, s'il avait envie, il ne sait pas le faire. Le seul type qui savait le faire, il ne travaille plus. Voilà. Il y en a encore un qui saurait peut-être, mais je ne suis pas sûr qu'il ait envie bien. Il fait ce qu'il peut avec ses 2 bras. Oui, voilà. Ouais, donc, sur le FTTH, il peut y avoir des choses en local, mais un vrai groupe FTTH ne l'aura pas. Il y aura peut-être des associations locales qui vont se monter.
Qui rentreraient dans votre fédération,
peut-être. Peut-être, quoi.
Sur le FTTH, il y a l'AG d'il y a 2 ans, on avait parlé de choses sur des réseaux d'initiatives publiques, comme par exemple la Chartres. Et que le blocage, c'était juste que je ne sais plus quelle boîte qui a la délégation fait traîner des pieds. Ça en est où ça, ça...
Bah, ils continuent à faire traîner des pieds.
J'essaye même plus de les relancer.
Mais ils sont reconnus nationalement pour être particulièrement doués sur ces questions-là.
Ouais. Ouais,
pas sur la fibre, hein, sur le traînage de
pieds. Oui,
ils ont des délégants débiles. C'est-à-dire que pour ce modo, je crois que le plus haut niveau de râlerie du client, de l'institutionnel, je crois que ça avait été un forward de mail.
Oui.
On a écrit au délégant pour lui dire « ton délégataire ne fait pas son boulot, il ne veut pas nous répondre, ça a été un forward de mail, nous en remercie de répondre. » Donc je crois qu'on a eu un accusé réception, depuis ça n'avait pas été plus loin.
Oui, j'ai un catalogue quand même. Ah, le catalogue, il est 6 fois. Ouais. C'est bon.
Et voilà, et c'est juste pour faire un cheval, quoi. Ça marche pas. On a un peu d'espoir pour faire des choses dans la Somme parce qu'on est bien implanté, qu'on connaît bien les gens et qu'il y a eu des jeux politiques qui ont fait que de toute manière, si le délégataire ne coûte pas, il va se faire taper dessus pour le coup assez fort. Mais ça reste un cas particulier.
Donc ça veut dire que les autres endroits, pour finir par débloquer, il faudrait aller au tribunal administratif pour dénoncer le contrat.
Dénoncer le contrat, c'est un arrivé au tribunal administratif pour démontrer la défaillance du délégataire. Et ça va être bonne chance pour te la démontrer, parce que tu peux être certain que la semaine avant, ils vont te fournir des logs comme quoi ils ont bien envoyé les informations que tu veux.
On a un membre qui opère un petit opérateur dans le Limousin, qui, après plusieurs années de traînage de pied d'Axione, a fini par passer les vitesses supérieures. Et maintenant, il commence à avoir un bon dossier avec des témoignages.
Il est toujours avec Axione ou on dit Bouygues maintenant?
On dit Bouygues aussi. Avec un dossier quand même qui commence à être assez épais et qui commence à partir en recommandé d'une part aux délégataires, en l'occurrence c'est Dorsal, et d'autre côté de l'ARCEP, qui commence à être les bonnes personnes en copie, et ça commence à faire du bien.
Il y a Denis qui...
Éventuellement, il peut avoir besoin de...
Ouais, là-dessus, ce que je voulais dire, c'est que par rapport à Axione, il y a une des choses qui fait que ça pourrait de toute façon très difficilement avancer, c'est qu'en fait, c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir des associations locales. Faire ça depuis quelqu'un qui est à Paris, il fallait essayer parce que ça pouvait donner le choix, et ça a relativement peu de sens. Et parce que déjà, on ne va pas avoir les bonnes pistes politiques si le délégataire fait pas son boulot, qu'il faut avoir quelqu'un qui soit impliqué localement parce qu'il veut faire des choses, et qu'on doit revenir sur la même chose, que comme il n'y a pas de réseau en tant que tel au niveau national des opérateurs, les seules choses qui peuvent se faire sont locales. Et pour que ça se passe localement,
il faut
avoir des gens localement.
C'est d'autant plus compliqué qu'effectivement, pour intervenir auprès d'Action et intervenir auprès des politiques locaux, c'est mieux d'être là-bas. Alors qu'Action, c'est très bien en fait.
Voilà,
envoyer entre Action et Paris.
Ça peut être très bien,
c'est un
rendez-vous.
Voilà,
vous voyez un petit peu le matin, dire on peut voir le politique l'après-midi. C'est quelqu'un qui est à 300 km de là.
Parce qu'il joue beaucoup avec ça aussi. Hein. C'est pas déjà un créneau dans un quart d'heure. Hein. Et toi, tu regardes le TGV, il est dans 6 heures et tu peux pas. Enfin, ça reste non simple. Ça reste de toute façon non simple. Genre, on a un exemple, je disais à Benjamin, on a un exemple aussi dans l'Oise, une initiative publique qui est opérée par SFR. Quand tu le contactes, grosso modo, tu dis que je suis opérateur, je veux avoir le catalogue pour pouvoir regarder ce que je peux venir faire et comment je vais venir jouer sur votre réseau. Te demande ce que tu veux. Tu leur dis, pas ton problème, je veux que tu me files le catalogue, je fais des courses dedans, je te contacterai plus tard. Ouais, mais comprends-tu, pour que je te fasse un devis d'SFR, j'ai besoin de savoir ce que tu as besoin. Et généralement, c'est ça. C'est comme ça que ça marche. C'est, ils opèrent leur réseau, que le public paye, et ils vendent leur service dessus. Et si tu rentres dans ce schéma-là, ça se passe très bien. Si tu rentres dans un schéma en disant, bordel à cul, c'est mon droit, je suis opérateur, tu vas faire ce que je te dis parce que tu es obligé de le faire, bah ouais, il va le faire, mais pas tout de suite. Là, il faut qu'il change la couleur des catalogues, il n'y a pas le temps. C'est comme ça que ça marche.
On a quand même aussi par obtenir 3 pages de scanner en détail.
Oui, et encore, c'était non simple ça. Ah, mais. Alors, ça peut-être qu'on tente au mieux. Hein. Le catalogue de la DST, vous l'obtiendrez. C'est le bon de commande signé.
Il faut le demander à la DST elle-même.
Comme ça, au pire, le catalogue, tu contactes le délégant et tu demandes au délégant de t'envoyer une copie du contrat de délégation de service public, que conformément à la loi de juillet 1978, il ne peut pas te refuser. Et il te dira combien coûte les frais de photocopie et il t'enverra par la poste. Donc là, tu auras le catalogue, tu auras les conditions du contrat, tu sauras à quoi s'est engagé le délégataire, à quoi s'est engagé le délégant, comment sont les contrôles, quels sont les contrats types, tout est dedans.
Après, la bonne solution, c'est de venir annoncer chez le délégant en lui disant « je viens vous voir pour signer le contrat parce que vous prenez-vous votre délégataire ou pas ».
Mais pourquoi il faut passer par le délégataire, donc
parce que c'est le principe de la délégation de service public. Prends un parallèle avec la vraie vie. C'est compliqué le réseau, on ne comprend pas bien. Dans ta mairie, dans ta ville, le balayage des trottoirs a été délégué à
Veolia.
Ouais.
Donc ce sont des salariés de Veolia qui balayent les trottoirs.
Ouais,
si c'est pas balayé dans ta rue, le seul moyen, c'est soit tu vas voir Veolia, ils vont dire non, vous avez oublié une rue, ils vont faire leur boulot, soit ils veulent vraiment pas. Dans ce cas-là, bah, tu vas voir la mairie et tu dis votre délégataire, il ne sait pas.
D'accord. Et, une fois que,
quand la plus grosse plainte que la mairie fasse auprès de son délégataire, quand c'est la 37e fois qu'on lui dit que ça ne fait pas, c'est de forwarder le mail en disant quand même, vous pourriez répondre au mail. C'est fini, quoi.
Normalement, c'est ouvert, une délégation, c'est ça, la délégation, c'est on fait un appel d'offres, c'est ça,
oui.
Mais alors pourquoi une fois qu'il y en a un qui est implanté, il est bonheur?
Parce que le service a été délégué, il n'y a pas deux délégataires. On ne va pas faire trois réseaux de métro.
Quatre
réseaux d'égouts.
Mais je pense que s'il y a des gens qui veulent faire un atelier DSP, ça se passe.
Ouais. Est-ce qu'il y a dans les membres actuels du bureau des gens qui souhaitent en sortir? Est-ce qu'il y a dans les gens qui ne sont pas membres du bureau des gens qui souhaitent y entrer? Et question beaucoup plus importante, est-ce que quelqu'un veut ma place?
Oui. Yes.
On a un président.
C'est juste pour gérer les thunes de l'UNE.
On va faire tous ensemble.
Franchard.
Moi, je ne sais plus dans le bureau, je me suis dit que j'ai toujours abonné à la liste et je m'en souviens avec moi du premier
satire. Oui, on va te dire mettre alors.
Bon, il n'y a pas de membres du bureau qui souhaitent en sortir?
Ils sont tous présents.
Je suis.
Qui est dans le bureau?
Alors, il y a moi, ça je suis sûr. Il y a Sylvain Valreau.
Je suis sûr aussi.
Il y a M. Luquin qui est vice-président. Il y a M. Rousseau. Il y a M. Avrem. Il y a Benjamin Soltage, je crois. Ouais. Il y a Zinci sur IRC. Il y a M. Arnold. Vincent Bolimard est membre du bureau. Je comprends que tu es responsable de son support. Je suis sûr.
J'en suis
fort. Je me souviens bien de t'avoir inscrit sur le petit papier à la préfecture.
Et à Thomas alors?
Il doit y avoir Thomas parmi nous.
Il y a des mecs sur la bureau.
T'es peut-être pas inscrit sur la liste, ça c'est.
Alors, en dehors des spams,
mais sur le
papier
à la préfecture.
Avec les spams,
plus.
Au spam, tu le vois.
Non, mais
c'est
peut-être
moi, c'est pas possible
dans le
dossier FDR, pas dans un
sous-dossier,
parce que j'ai peut-être pas fait le film.
On n'arrange pas ses affaires, tu vois.
Non, je t'assure, vu le volume de spam sur la liste bureau, tu l'aurais repéré. Là. C'est 50 par jour.
50
les mauvais
jours.
Oui.
Ah oui, là,
à 50 par jour, tu commences à regarder les X.
Tu parles que de ceux qui ne sont pas traités automatiquement.
Oui, c'est ceux qui parviennent jusqu'à chez moi. Et donc, on remettrait M. Delépine. Bien. Et là, je propose que ce bureau soit mis au voie. Personne d'autre dans les gens.
Je n'ai pas compris c'est quoi ce qu'on va sur un renouvellement
du bureau. Renouvellement du bureau avec l'ajout de Jean-Charles de l'Écu.
On sait que les gens, ceux qui sont pas là, on veut à nouveau être dans le bureau.
Oui, ils ont déjà à s'exprimer.
Ils m'ont donné une procuration.
Donc ils sont volontaires.
Dans les gens qui ne sont pas là, c'est très vite vu. Il ne manque que Benjamin Sontag, qui a très clairement fait savoir qu'il voulait, et Thomas, qui a très clairement fait savoir qu'il continuait. Donc là, voilà.
Et dit comme ça, c'est.
Oui, hein, c'est ce que ça fait.
Non, il a pas
peur. On pourrait voter de partir à une autre AG.
Je propose qu'on mette ça au voie. Allez, on va faire ça dans l'autre sens. Qui est pour?
Moi les mains.
Maintenant, qui est contre?
Voilà.
Et qui donc s'est abstenu?
Une fois.
Bah, en fait, ceux qui viennent d'arriver n'ont pas le droit de voter.
Bah, ils ne
pas.
Donc,
on est toujours moins l'autre qui a mis voté.
Ceux qui n'ont pas le droit de vote,
ceux qui n'ont pas le droit de vote, c'est pas très grave quand on fera le compte. On se fera ce qu'il faut. Ok. Bon, je propose que l'Assemblée Générale soit levée, qu'on aille faire autre chose avec des liens, tout ça.
Ouais.
Il
y a réunion du bureau politique.
On n'a pas parlé des projets d'année en place.
De l'IAF? Ah, non. C'est aussi la question.
On n'a pas parlé du projet 2009 sur l'Assemblée Générale 2018.
On a parlé de la fédération, c'était bien, mais de l'Assemblée.
Il y a un message très intéressant sur le la dimension internationale, le tunnel.
Ah, oui. ça discutera très bien sur la liste AG. J'ai l'impression, je me trompe peut-être, on peut vérifier ça formellement. Il y a quelqu'un qui a trouvé qu'il ne faut vraiment pas le faire.
Quoi? C'est pas au droit filtré.
Les idées de tunnel, d'association internationale, de
tunnel,
c'est
très bien,
quoi.
Vous tuez la règle du pis,
hein, bien sûr. Ah, c'est bien, ça, c'est méchant.
J'avais
une
remarque.
Tu parles plus fort.
Oui, on n'a pas parlé. Quand Marc Lécuyer, alias Jackie sur RC, a donné sa procuration, il a bien précisé qu'il était contre le fait qu'on produise.
Non,
on fasse un produit avec Thor, voilà. Qu'il était favorable à ce qu'on fasse du tunnel à condition qu'on enregistre tout ce qui passe. Ce qui est contraire au club des passes des communications.
Non, non, c'est on enregistre tout ce qui passe. C'est-à-dire qu'en fait, on attribue de l'autre côté du tunnel une idée spécifique à chacun. Voilà. Comme ça.
Nominative, en fonction. Enfin, on est des hommes d'élection, quoi.
Il y a une différence entre les deux. Oui.
Ça ne
peut pas être
tunnel, il ne soit pas totalement un tunnel. Chaque tunnel termine une seule personne par IP. Non, je suis désolé, vous n'avez pas lu son mail. Dans le cas où on parle de service VPN, c'est OK, mais à une seule condition, deux points. Que chaque VPN termine une seule personne par IP, ça c'est facile, virgule, et que nous puissions savoir qui a été où. Ça veut dire, si tu vas sur grosloulot.com, on enregistre. Et ça, c'est pas possible.
Ça n'a aucun sens, c'est parce que...
C'est contraire au... Je suis désolé, c'est contraire au code des postes et communications électroniques.
Oui, c'est ça.
C'est une atteinte à la droite.
Il voulait peut-être écrire de qui vient d'où.
Ah, et ça, c'est autre chose. C'est pas plus logique. Mais ça, c'est évident. C'est pas qu'il a écrit. Oui.
Donc ça veut dire que concrètement, si tu as un projet qu'on lance et qu'il y a un groupe de travail qui se constitue là-dessus.
Ça veut dire que le groupe des administratifs va travailler dessus.
Voilà.
Ah, il y a un point quand même, juste pour la forme, tu notes dans le compte-rendu que les trois entrées dans le groupe des administratifs sont liées.
À ce moment-là, je voudrais rentrer dans le groupe des administratifs parce que ce projet-là m'intéressait.
Donc les quatre. Hein. Donc, les quatre.
David. Il faut que tu parles plus fort et debout.
Dans un mail que je t'avais envoyé il y a quelques mois, je te parlais de la relation entre la VN et la RMN. Est-ce que tu m'avais dit valider en AG?
Ah oui. Et c'était donc quoi? Qu'on subventionnait à hauteur de 200 euros?
Oui.
200 balles. C'est
cher.
Ouais, mais c'est la crise pour ce
qu'elle est. Est-ce qu'on subventionne les rencontres mondiales du logiciel libre?
Non.
Bon.
Allez, qui est
pour... C'est tous des cons.
Ils sont plus, rappelle-toi.
Je crois que, eu égard aux difficultés financières, on pourrait peut-être faire un effort avec l'USC, ça a l'air un peu plus de bonne.
7 euros.
Pas en 101, par contre, on peut faire des avances. Pas plus de pognon, si c'est 250 au lieu de 200, ça change rien. 2000, je ne suis pas sûr qu'on puisse.
Non, mais 500, ça doit être jouable, et puis il y a un souci de discours politique derrière. Quoi.
Mais on doit, non, peut-être que ça change. Parce que.
Je ne veux pas être capable d'expliquer que pour FDN, donner 500 au lieu de 200, c'est le décès non simple, mais qu'il y a un effort qui est fait et qui leur permet aussi derrière de répercuter en disant des petits fonds, faites-le aussi. Quoi.
Ça doit être jouable. Je soupçonne que dans la salle, tout le monde soit d'accord, mais il faut quand même le dire.
Oui, c'est pas des
RNL. Énorme.
Ça essaye d'avoir des budgets énormes, mais en ce moment, c'est non simple quand même.
Mais il y a un vrai problème de financement sur les rencontres mondiales cette année à cause, entre autres, de la crise. Oui. Et du manque de fiabilité des politiques locaux autour de Nantes. Donc la question, c'est pas tellement combien ils ont de budget, c'est combien ils n'ont plus. Et il y a beaucoup de financements consommés. Et donc, il y a...
Si tu veux, l'association qui organise un truc qui est important en termes d'audience, mais ponctuel, pas forcément, qui va se reproduire, va faire partie de l'équilibre.
Je comprends, mais moi, ce que je veux savoir, c'est qu'est-ce que ça représente, 500 euros pour les RML, en
fait. Ça représente rien sur les 200 000 euros de budget. Par contre, ça représente que sur les 30 ou 40 kilos que l'équipe de recherche de sponsors doit ramener, ça va leur permettre de dire, regardez, là, on a un petit groupe et une association qui a fait l'effort de donner 500 ou 1000 habituellement. Peut-être que vous pourriez pousser à les 500 ou 2000 parce qu'on a vraiment besoin. C'est juste rien. C'est juste rien en termes de volume d'argent, mais par contre, ça donne des vrais arguments derrière.
En fait, le truc, si tu fais de la charge de fonds, tu t'aperçois d'un truc, c'est que si personne ne donne du pognon, personne n'a pas donné. Si tout le monde en a donné, les autres vont donner aussi. Et en gros, c'est tout le monde, personne.
Il y a un point important aussi, c'est que les dons qui sont faits par FDL ou les avances de trésorerie, je pense que par contre, on doit pouvoir essayer de faire des avances de trésorerie un petit peu plus sérieuses. Faut que je regarde où on en est dans les retards de paiement de facture, et si on n'a pas trop de retards de paiement de facture, on peut avancer de l'argent. Le point important par contre, c'est que nous on donne de l'argent tout de suite. C'est-à-dire que le jour où je fais des virements sur le compte des RML, disons les 500 euros, la région ou l'État, ils rembourseront sur facture. À 700 jours fin de siècle, ça fait un léger trou de trésorerie. C'est pour ça que la ligne qu'on a fournie en juillet 2007 avec l'UG a été payée en novembre 2008.
Novembre ou septembre, mais ouais, dans ces jours-là,
ouais. Sachant qu'elle était inscrite au budget fin 2006. D'accord ? C'est de cet ordre-là, c'est 24 mois de trou. Entre ils t'ont voté un budget, c'était quand même très 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 formel, et ils t'ont versé une cotisation il y a 24 mois. Alors que si nous on vote qu'on verse un budget au RML, il peut y avoir 48 heures. C'est quand même plus court.
C'est parce qu'on est samedi que le dimanche est fermé, mais sinon.
Non, si t'intéresses, marche bien.
Donc il y a 4 entrées dans le groupe 6, comment on fait un groupe politique avec des petits.
Oui. Il y a une sortie du groupe politique, j'ai noté.
Il y a une qui sera le
groupe politique. Il y a une qui sont du groupe politique.
On va faire un groupe obligatoire en arrêt.
Non.
Ok.
Non.
Non, mais là on le sent dans l'arrêt.
Il se trouve qu'il y a eu, dans les semaines qu'on peut s'éloigner, trois personnes qui souhaitaient rentrer dans le groupe Admissif et qui m'a dit, écoutez, on fait partie d'un bloc dans la réorganisation qui suit l'AG, s'il y a réorganisation.
Et on valide donc le nom en ADNF.
Et on valide le nom à un don. 500, c'est un don. Après, il faut qu'on regarde si on est capable de faire une erreur de
trésorerie. On va être 500 bons, c'est sûr. Et on garde plus tard, on prend contact avec le vice-président de la République.
Ouais.
Ou un script.
Donc, on va prendre le temps. Le montant, de toute façon, ce serait pas très, très, très volumineux, ce serait de vous prendre.
Avant 50 000 euros, on peut pas. Donc, tu as fait la séance
en fait. Ouais, voilà.
Oui. Question d'hiver.
Oui. On va se dépêcher.
Les questions d'hiver, quels seront les tarifs pour l'année 2009 ?
Inchangés.
Inchangés.
Est-ce qu'il y a d'autres questions d'hiver ?
Alors, l'autre question d'hiver, c'est... On a eu un très bon de ma part pour dénoncer des questions concernant les adhérents de la RDN. Est-ce là encore une suite ou pas ?
Quel mot ? La conférence ?
Non, c'était quand on a demandé quelle personne avait vraiment chargé quelque chose de la fête de la RDN.
Il n'y a eu aucune suite. J'ai pas reçu de réponse. Par contre, sur ce mail-là, je vais le faire voyer par un juriste pour pouvoir le publier. J'ai toujours pas envoyé, faut que j'envoie à Sébastien Calvet pour qu'il me lise, qu'il me dise s'il dit pas trop de bêtises. Oui, alors, pour le coup, le remarque, oui, c'est toujours bien, mais c'est pas très grave. Par contre, il y a une vraie question, si je me trompe juridiquement, est-ce que j'ai le droit de publier ma réponse ? J'ai pas le droit de publier une correspondance privée. Mais c'est pas une correspondance privée, puisqu'ils écrivent à l'association et non pas à moi personnellement. Et c'est ma réponse, je sais pas si j'ai le droit de la répondre.
C'est pas une conversation privée, hein. C'est les destinataires.
Ouais.
L'association n'a pas le droit de diffuser la conversation sans l'accord sans l'accord explicite de la personne.
Pas clair. Pas clair. Qu'est-ce qu'on dit ?
Qu'est-ce qu'on
mange ?
Qu'est-ce qu'on mange ?
Quand est-ce qu'on fume ?
Là, on fume.